parlant de questions des droits de l'homme, notre invité est en ligne depuis la Guinée, c'est M. Diallo Abdoul Gadir. Je vais activer le micro de notre invité, ensuite passer notre invité à Essad Chérif Baldé. M. Diallo, bonsoir et bienvenue sur Africa Midi.
Bonsoir.
Alors, bonsoir M. Diallo, merci d'avoir accepté notre invitation sur la radio Africa Midi, la radio de la diaspora guinéenne africaine. Et comme vous le savez, nous sommes là aujourd'hui parce qu'on pense que vous êtes déjà avec votre expérience, vous êtes une personne de ressources, une personne pleine d'expertise qui peut effectivement partager non seulement ses connaissances avec nos auditeurs, avec nous, parce que on a vu votre CV, qu'on a essayé de partager aussi avec nos auditeurs et tout. À ce que je sache, vous êtes consultant, formateur, président de l'Organisation guinéenne des défenses des droits de l'homme et des citoyens à Conakry. Vous êtes surtout consultant, formateur sur les mécanismes africains onusiens des droits de l'homme. Donc ça, vous avez une expérience qui date pas de maintenant. Vous êtes familier de beaucoup de dossiers concernant beaucoup de pays africains, commencer par la Guinée, en passant par le Togo jusqu'au Burundi et tout cela, le Congo et tout cela. Donc, vous avez vraiment l'expérience qu'il nous faut pour essayer de parler du massacre du 28 septembre 2009. Et moi, personnellement, j'ai eu à vous connaître parce que j'ai aussi fait la prison à Conakry en 96. Et là, en ce moment, c'était Feu Dr Sow qui était président de l'organisation, de votre organisation et tout. Vous étiez avec lui. Donc, ça veut dire que depuis 96, déjà, vous militez, vous êtes dans cette organisation. Maintenant, vous êtes à la tête. Et grâce à l'OGDH, j'ai eu quand même un appui un appui colossal pour me permettre de venir en Allemagne étudier. Vous m'avez beaucoup assisté. L'assistance, je ne vais pas l'oublier. Et donc, c'est non seulement un plaisir de vous avoir ici aujourd'hui, de parler avec vous, parce que je sais que, en quelque sorte, sans vous, je n'allais pas être là où je suis aujourd'hui. Sans vous, j'allais pas pouvoir survivre en tout cas, mais bon, vous avez été pour moi quelque part un sauveur. Et merci d'avoir accepté notre invitation, merci d'être venu, et je vous laisse d'abord le temps de nous parler de vous. Parlez-nous un tout petit peu de vous, de vos actuels, projets, et voilà, avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Soyez la bienvenue, M. Diallo.
Merci, et le plaisir de partager. Je suis fier de savoir que vous êtes à ce niveau et que vous parvenez quand même à porter encore très haut la voix des sans voix. Vous qui avez été la victime d'un de ces régimes répressifs en Guinée, aujourd'hui vous avez l'opportunité de donner la parole à des personnes qui ont travaillé avec vous à un moment donné et vous donner l'occasion et l'opportunité à d'autres qui sont sans voix de pouvoir s'exprimer. Je voudrais avant tout vous dire que depuis 2011, nous travaillons sur le dossier du 28 septembre dans le cadre de l'accompagnement judiciaire des victimes. Mais déjà, dès les massacres du 28 septembre 2009, on avait eu à faire un travail d'enquête sur les cas de violation qu'on avait pu enregistrer à l'époque, mais aussi les cas de viol et de disparition. Et à ce jour, nous sommes très fiers de savoir que cette documentation qu'on avait eu à faire à l'époque a servi de base de données à la Commission internationale d'enquête des Nations Unies qui était venue travailler sur ce dossier. Mais aussi et surtout, c'est ce travail que nous avons eu à faire et cette base de données qu'on a eu à recueillir qui a permis justement d'engager l'action contre les personnes qui sont présumées être responsables de ces massacres. À date, avec nos partenaires de la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, le AFIDH, avec l'AVIPA, l'association des victimes du 28 septembre, mais aussi avec l'appui financier de l'Union européenne, nous sommes parvenus à nous constituer partie civile et à accompagner plus de 400 victimes qui se sont constituées aussi partie civile dans ce dossier. Nous avons le bonheur de savoir, par exemple, que beaucoup de personnes ont été inculpées. Mais tout le handicap qu'on a aujourd'hui et qui constitue le point d'interrogation sur lequel on est amené à se poser des questions, c'est à quand le procès. Après les massacres du 28 septembre, On aimerait bien que le gouvernement nous dise d'un moment à l'autre à quelle date va commencer l'audience sur les massacres du 28 septembre.
D'accord. Ok, ben oui, tout le monde attend naturellement, surtout les victimes, ils attendent impatiemment, M. Diallo, qu'on nous dise à quand le procès. Mais avant de revenir, avant de parler du 28 septembre, je veux d'abord qu'on essaie de revenir en arrière, parce que comme vous le savez, le 28 septembre, c'est en 2009, ça fait 10 ans. Et il y a eu tellement de régimes répressifs qui se sont succédés en Guinée. Vous pouvez me dire à peu près, vous qui êtes effectivement quelqu'un qui est familier de sujets aussi brûlants concernant la violation des droits de l'homme en Guinée et tout cela, moi je suis une victime aussi de ces différents régimes qui se sont succédés parce que j'ai eu à perdre un œil, donc j'ai un œil qui ne voit plus grâce à ces exactions que j'ai eu à subir en prison à la maison centrale à Conakry. Et c'est pourquoi ça me fait encore beaucoup plus mal de voir encore de nos jours des gens toujours victimes, c'est-à-dire de ces mêmes répressions, de ces mêmes violations. Et qu'est-ce qui explique que l'État guinéen, c'est-à-dire arrive toujours à considérer pratiquement ce genre d'exactions, c'est-à-dire c'est comme un fait banal, c'est-à-dire comme voire un fait ordinaire. Parce qu'au-delà même de 2009, nous constatons aussi qu'en Guinée, on a vu ces dernières années aussi, après 2009-2010, il y a eu pratiquement chaque fois qu'il y avait des manifestations, l'État arrive toujours à exercer son autorité de manière très violente. Il y a eu beaucoup de morts, il y a eu à pratiquement plus de 100 morts, je me dis, et pourtant on parle aujourd'hui, on dit que voilà, la Guinée c'est ouverte quand même. Nous sommes dans une phase de transition démocratique. Est-ce qu'on a besoin de tout cela est-ce que l'instauration d'un État démocratique, selon vous, a besoin d'une telle répression violente venant de la part de l'État?
En fait, il faut résumer tous les comportements que les différents régimes ont eus par l'instauration de la culture de l'impunité comme étant un mode de gouvernance. Je vais vous expliquer un peu ce que nous avons toujours déploré, nous autres. C'est que, à l'avènement de l'armée au pouvoir en 1984, comme vous avez dû l'apprendre par les témoignages et les écrits qui ont été faits, il y a eu beaucoup de crimes qui ont été commis entre 1958, date d'indépendance de la Guinée, et 1984, date de prise du pouvoir par l'armée guinéenne. Au bas mot, les statistiques qui ne sont pas encore réconciliées parlent de 50 000 victimes. Et c'est à l'époque qu'on a parlé du tristement célèbre Camboiro qui avait créé les conditions d'une répression aveugle de l'ensemble des voix discordantes qu'on a eu à enregistrer dans ce pays. Le régime du parti unique d'alors, le PDG, a essayé par tous les moyens d'étouffer toute voix contradictoire. Malheureusement, à l'avènement de l'armée au pouvoir en 1984, on avait espéré qu'il y aurait eu un procès qui aurait permis à tous les Guinéens de comprendre comment tout ceci s'est passé. À la place d'un procès en bonne et due forme, c'est plutôt un collectif de l'ensemble des dignitaires de l'époque et de certains officiers majoritairement de la même communauté ethnique qu'on a eu à enregistrer. Non seulement les crimes qui ont été commis avant l'avènement de l'armée n'ont pas connu d'issue judiciaire pour qu'il y ait effectivement un procès juste et équitable, mais avec l'avènement de l'armée, il y a eu non seulement ces massacres collectifs, mais en plus, il y a eu beaucoup de violations des droits de l'homme. Vous en êtes une victime, alors que vous ne faisiez que revendiquer ce que vous considériez comme étant les règles liées un peu à la gestion démocratique d'un régime. Et vous avez dû apprendre aussi ce qui s'est passé en janvier 2007. Et avant les événements de janvier 2007, il y avait eu d'autres événements qui ont été réprimés dans le sang, ce qui est resté aussi impuni. Et laissez-moi vous dire que les agents d'exécution qui ont reçu l'ordre de massacrer les populations et les manifestants de 2007, se sont retrouvés en 2009 comme étant les gens qui avaient le pouvoir de décision. Donc, les agents d'exécution, ils deviennent décideurs politiques. Et comme ils ont constaté que les événements de 2009, c'est la même chose qui est en train de se passer, que le manque de justice. Et l'impunité qui s'est instaurée dans le pays a favorisé justement l'ensemble des violations massives des droits de l'homme que nous avons commises. Et après 2009, des violations sont en train encore d'être commises aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les forces de défense et de sécurité qui ont toujours été responsables de ces violations des droits de l'homme n'ont jamais été inquiétées et il n'y a pas eu une procédure judiciaire engagée contre ces personnes. Et moi je me dis donc que la propension des forces de défense et de sécurité à violer massivement les droits de l'homme en Guinée est le fait d'instaurer l'impunité comme un mode de gouvernance. Et aussi longtemps qu'on n'aura pas réglé cette question, on va toujours enregistrer des cas de violation parce que plus ils font preuve de zèle pour soutenir un régime qui veut se maintenir, plus ils restent impunis. Ce qui est très regrettable.
D'accord, Monsieur Diallo. Très pertinent ce que vous venez de dire et tout cela. Donc, en gros, c'est que je. Qu'est-ce que maintenant, comment combattre ce fléau que constitue la violence politique en Guinée? Parce que là, c'est, disons, il y a non seulement une culture de l'impunité, c'est-à-dire qui aboutit à une sorte de violence politique en Guinée, donc c'est devenu pratiquement normal. Et si j'essaie de transporter tout ce que vous aviez dit maintenant, tout ce que vous aviez relaté à la situation comment, des victimes du 28 septembre, nous savons actuellement que depuis 10 ans, il y a, comme vous le dites, il y a beaucoup de responsables et, comment ça, militaires qui ont été inculpés, qui occupe encore aujourd'hui, c'est-à-dire dans le cas du massacre du 26 septembre, qui occupe encore aujourd'hui des postes de responsabilité en Guinée. Et voilà. Vous voyez un tout petit peu. Donc, ça veut dire que pratiquement la culture de l'impunité continue. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de mettre fin à cela? Parce que pour moi, ça, c'est une sorte
de... D'abord, il faut qu'il y ait une mobilisation au niveau de tous ceux qui sont épris du respect des droits de l'homme et qui veulent que la Guinée soit un état de droit. C'est en ça que nous avons estimé que la mise en place de cette plateforme nationale pour essayer d'engager une action en faveur des victimes du 28 septembre est une démarche qui doit pouvoir aboutir. Et c'est en ça que depuis 2009, en partenariat avec la FIDH, avec l'AVIPA, avec les associations des familles des disparus, avec l'association des victimes du camp Boaro, avec l'association des victimes de la répression de 1984-85, lorsque l'armée a pris le pouvoir, on se dit que il faut absolument que toutes ces associations se retrouvent avec les bonnes volontés au niveau national et international pour que le procès du 28 septembre aboutisse à une suite judiciaire heureuse. Parce qu'aussi longtemps qu'on n'aura pas fait un engagement aussi fort au niveau de l'État, pour pouvoir obtenir un procès juste et stable, les crimes se commettront toujours. Je vais vous donner deux exemples. Je vous dis qu'il y a en fait un manque de volonté qui est en train de se dessiner. Un, des personnes inculpées occupent encore de hautes fonctions responsables dans l'appareil de l'État. Et l'État argue au nom du principe de la présomption d'innocence. Ils ne peuvent pas considérer ces personnes comme étant des coupables jusqu'à ce qu'un tribunal se constitue pour le dire. Moi, je suis d'accord. Mais faut-il se mettre à la tâche maintenant pour mettre en place ce tribunal? Deuxièmement, dans tous les états sérieux, chaque fois qu'une personnalité occupant de haute fonction au niveau de l'appareil d'État est salie dans une affaire concernant de telles situations ou alors des situations moindres, du coup, la personne, par élégance, a soit démissionné de son poste en attendant de répondre des faits qui lui sont reprochés, ou alors l'État le pousse à la pour le mettre à la disposition des services judiciaires pour qu'on puisse effectivement tirer au clair l'inculpation d'un client dont il a obtenu. Mais chez nous, c'est le contraire. Aujourd'hui,
allô?
Voilà là où on se dit que, du contraire, l'État guinéen est en train de tergiverser et l'État guinéen n'a pas créé les conditions pour que ce procès-là se tienne. Donc, d'accord, je me dis que l'une des démarches fondamentales, c'est de mettre la pression et de se servir de tout ce qu'on a comme partenaires bi- et multilatéraux et de mettre en place une plateforme comme on a eu à le faire de l'ensemble de ceux qui veulent qu'il y ait justice en Guinée et qu'il n'y ait plus jamais ce que nous avons toujours connu comme horreur, pour que nous mettions la pression afin que le procès ait lieu et que les gens comprennent qu'ils sont justiciables au même titre que le citoyen lambda.
D'accord, Monsieur Diallo. Si je comprends bien, vous parlez de la création pour y arriver, pour qu'il y ait vraiment juste, pour que justice soit rendue dans ce cas-ci, et je dirais même aussi dans beaucoup de cas en Guinée, il faut que réellement que les gens s'engagent, qu'il y ait, c'est-à-dire une sorte de plateforme, en tout cas que les gens qui sont épris, c'est-à-dire qui veulent qu'on arrive à respecter les droits de l'homme, le droit de l'homme en Guinée et des citoyens et tout cela, qu'ils essaient de s'engager politiquement, c'est-à-dire qu'on se constitue sous une forme de une forme de plateforme pour mener des démarches ensemble et pour mettre la pression sur le gouvernement afin qu'ils essaient d'agir. Là, je dirais, est-ce que en ce qui concerne, parce que quand on voit les victimes, pratiquement le plus souvent, c'est les victimes sont issues du rang de l'opposition. Est-ce que là, l'opposition n'est pas quelque part aussi, son silence n'est pas aussi assourdissant que celui du gouvernement en place? Certes, ils vont me dire que voilà, ils ne sont pas encore au pouvoir, mais je me dis, en tant qu'opposant, quand on est acteur politique, le rôle premier aussi, c'est de constituer une sorte de contrepoids à ceux qui sont là, pour non seulement mettre la pression, comme vous l'avez si bien dit, afin que la justice soit rendue. Parce que pour moi, il est encore inadmissible, même si on peut jouer sur la carte de présomption d'innocence et tout cela, si l'opposition arrivait à prendre peut-être au sérieux encore la nomination de beaucoup d'acteurs, c'est-à-dire de beaucoup de responsables militaires impliqués dans ce dossier, je parlerai même de Tiegboro et tout cela, je parlerai aussi de Mathurin Bangora, et si l'opposition peut-être arrivait plutôt à mettre la pression sur le gouvernement en place, peut-être que ces gens-là n'allaient pas encore occuper des postes qu'ils occupent là maintenant, et parce qu'ils sont quand même inculpés, c'est des présumés coupables et tout cela, même si voilà, on n'a pas encore prouvé comment ça s'appelle leur culpabilité. Voilà, donc je me dis quelque part, il y a une sorte de défaillance au niveau même des acteurs politiques de l'opposition. C'est-à-dire en Guinée, j'ai l'impression que la banalité de la perte de la vie humaine, c'est à tous les niveaux. C'est-à-dire du moment où
Je vais vous dire une chose, Madame Chérif.
Oui.
Vous savez, il y a une illustration très claire de ce que vous dites là au niveau de toute l'opinion nationale guinéenne. Chaque fois que des événements comme ça se sont produits, il y en a qui ont pensé qu'ils ne sont pas concernés parce qu'ils n'ont pas été touchés dans leur chair ou parce que les leurs n'ont pas été touchés. Et aussi longtemps qu'on ne se sera pas dit que si un Guinéen est touché, victime de violation de ses droits à Yomou, à Koundara ou à Boké, tous les Guinéens doivent se sentir concernés, la répression va toujours se battre sur les Guinéens. Chaque fois qu'il sera là, l'autre va se dire « je ne suis pas concerné ». Et plus grave, c'est qu'aujourd'hui, quelqu'un est victime de violation de ses droits. On commence par essayer d'identifier d'abord quel est le patronyme de la personne, de quelle région elle vient, de quelle obédience politique elle est, avant de commencer à s'engager pour la défendre ou la vouer aux gémonies. Quand je prends l'ensemble de la population guinéenne, aujourd'hui, nous sommes dans une situation où l'ethnisation et l'ethnostratégie ont gagné du terrain sur l'ensemble de la population guinéenne. Et vous savez, à certains moments, comment on appelle certaines choses qui se passent? Par exemple, les événements du 28 septembre. Le citoyen lambda va vous dire, c'est là où on avait tué les Peuls. Et à partir de ce moment-là, il a l'impression il n'est pas concerné parce que c'est les Peuls. Quand il y a eu les événements de juillet 1985 en Guinée, beaucoup de Guinéens sont sortis pour applaudir et casser les domiciles des gens parce que pour eux, c'était la communauté malinké qui était visée. Il est arrivé des moments où, quand des événements se produisent dans telle ou telle région, je prends par exemple le cas de la région forestière.
Oui.
Avec le régime actuel, il y a eu des massacres collectifs qui ont été organisés à Gogota et dans certaines provinces et dans certaines sous-préfectures de Gérékoré. Mais c'est comme si les gens de Labé, les gens de Boké, les gens de Kini, les gens de Kankan ne se sentaient pas concernés. Et c'est là où on est le plus proche de la désolidarisation chaque fois qu'il y a une situation de violation grave des droits de l'homme. Lorsque Mathurin a été inculpé, c'est toute la communauté Baga qui s'est levée pour dire que non, il ne faut pas qu'on touche leur fils. Aujourd'hui, Tiégoro, Dadis Camara sont inculpés. Vous trouvez même au niveau de la couche la plus intellectuelle de la Guinée des gens qui se disent que non, que ça vise la communauté forestière. Finalement, on a transposé l'éthique et les règles morales qui doivent régir un état de droit dans la communautarisation des faits et gestes qui sont posés par des cadres relevant d'une autre communauté. Et c'est là où c'est très, très triste. Je vous donne un autre exemple. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas parler des crimes commis par le régime du PDG sans que des voix s'élèvent pour vous donner l'impression que la dénonciation des crimes commis par le régime du PDG, c'est l'affaire des malinqués, c'est une façon de s'attaquer aux malinqués. Et moi, j'aime à dire que les crimes massifs commis par le PDG n'ont jamais été des faits imputables à une communauté. Pourquoi ? Parce que le PDG était étalé sur toute l'étendue du territoire guinéen. Et pas une seule fois, on a vu un secrétaire fédéral ou un secrétaire général du comité directeur importé dans une préfecture, pardon, dans une région administrative pour essayer de décider des faits politiques qui doivent se mener dans cette région-là. C'est des gens qui avaient les mêmes objectifs, parce qu'à Koundara, ce ne sont pas des malinqués qui étaient là, à Zérékoré, ce ne sont pas des malinqués, à Boké, ce ne sont pas des malinqués. Mais les violations des droits de l'homme au temps du PDG ont été massives et ont concerné tous les Guinéens. Aujourd'hui, dès que vous commencez à parler d'une gouvernance au niveau de ce ministère guinéen-là, c'est-à-dire qu'en fonction de votre patronyme, on vous étiquette. On va vous dire où vous êtes Selou Dalin, où vous êtes Lansana Kouyaté, où vous êtes Lansana, des choses, comment dirais-je, Sidi Atouré, où vous êtes Alpha Condé. Et je vais vous dire que la démission est à tous les niveaux, aussi bien au niveau de l'État qu'au niveau de l'ensemble des leaders des partis politiques, parce que certains leaders des partis politiques aujourd'hui en train de se battre pour la conquête du pouvoir étaient victimes de la même manière que les autres. Mais au nom d'intérêts petits, de petits intérêts politiques et de la stratégie politique qu'ils veulent mener pour conquérir le pouvoir, ils n'ont pas l'impression que c'est un sujet sur lequel il faut débattre. Et tout récemment, en collaboration avec RFI, nous avons publié un livre qu'on a intitulé « Mémoire collective », dans lequel on a essayé d'indiquer un peu les différents complots que la Guinée a connus et qui ont suscité des pressions sanglantes. Vous savez que même au niveau du président de la République aujourd'hui, il y a une frustration. Il pense que l'on ne devait pas produire ce document-là, qu'on ne devait pas éditer ce livre-là. Comme si éditer un pan de l'histoire de la Guinée, du passé de la Guinée, est un crime de lèse-majesté. Parce qu'on a eu un tollé général autour de ce sujet-là et on a même eu l'impression qu'on avait commis des crimes plus grave que ce que le PDG avait commis. Comment voulez-vous que dans un pays comme ça, on puisse compter sur des leaders de partis politiques et autres, lorsque chacun se croit non concerné? C'est en ça qu'on s'est dit que la plateforme que nous avons eu à mettre en place n'est qu'une plateforme qui doit prendre l'ensemble de ceux qui veulent adhérer à la lutte contre l'impunité en Guinée. Il ne s'agit pas d'une adhésion massive au niveau de la plateforme, mais que ce soit une adhésion de qualité. Parce que la loi des grands nombres nous prouve que ça ne marche pas généralement. Et c'est pour cela que nous nous persistons et nous persévérons dans ce combat-là.
D'accord, d'accord, monsieur Ndiallo. Déjà, cette plateforme-là, elle m'intéresse. Je crois qu'après ici, je vais essayer de voir si je ne vais pas aussi y adhérer, quoi. Bon, bref, pour revenir toujours...
Je serai la bienvenue et je vous envoie toutes les coordonnées sur lesquelles vous pouvez. Je fais pour pouvoir effectivement obtenir ce que vous pouvez. C'est ouvert à toutes les bonnes volontés.
D'accord, il n'y a pas de souci. Maintenant, comme vous l'avez si bien décrit, ça veut dire que, si je comprends bien, il y a une sorte de démission collective de la part des acteurs politiques en Guinée pour des, disons, à cause d'intérêts égotiques et égoïstes, ce qui rend encore la situation plus compliquée, non seulement pour vous qui essayez de lutter sur le terrain pour défendre pratiquement le droit de non seulement des citoyens et puis les droits de l'homme en Guinée. Et donc, Du coup, c'est ce que je dénonce ici aussi en longueur de journée, c'est ce que je dis. Je me dis, vous avez parlé d'un facteur qui est très pertinent, c'est-à-dire l'ethnicité. L'ethnicité en Guinée, en Afrique, ça pose problème. Du moment où, et partout quand vous voyez, je me dis, quand vous prenez la population guinéenne dans son entièreté, le problème ne se trouve pas, je dirais, entre eux. Le problème a toujours été au sein de la classe politique guinéenne qui essaye de se servir de l'ethnie pour essayer de garder non seulement ses privilèges, mais aussi et surtout pour arriver peut-être au pouvoir. Ce qui complique non seulement la situation de vivre ensemble dans ce pays, parce que nous avons la malchance et que beaucoup de nos gens non seulement manquent de culture politique, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui ne sont pas scolarisées, c'est-à-dire qui n'ont pas un niveau requis pour permettre de faire un discernement par rapport au discours politique des acteurs politiques du moment sur le terrain, et comme ça a toujours été le cas d'ailleurs de par le passé. Et ce qui est très inquiétant pour l'avenir de la Guinée, et là je me dis personnellement, parfois quand j'essaie de regarder tout ce qui se passe dans ce pays, je me demande effectivement si on va essayer un jour de voir le bout du tunnel et tout. Mais bon, néanmoins, revenons un tout petit peu sur le dossier du 28 septembre. Il y a eu, je crois que les instructions se sont terminées en fin 2017, ça fait 2 ans maintenant. Par rapport à cela, il y a eu les partenaires de la Guinée, je crois, dont l'Union européenne et les États-Unis, qui ont essayé quand même de mettre, je ne sais pas s'ils l'ont fait, en tout cas, ils ont dit qu'ils allaient mettre des fonds à la disposition de l'État guinéen pour démarrer le procès. Mais jusque-là, comme vous l'avez si bien décrit, enfin, le procès, c'est-à-dire sur les massacres du 28 septembre, n'a pas encore démarré. Et pourtant, selon ce que j'ai appris, les informations que j'ai, il y a un comité de pilotage, c'est-à-dire un comité de pilotage concernant ce procès, concernant le dossier du 28 septembre. Mais malgré ce comité de pilotage-là, il n'y a toujours pas une date qui est fixée pour essayer de commencer ce procès. Selon vous, qu'est-ce qui explique cela? Est-ce que ça, le blocage du dossier, c'est d'ordre politique ou qu'en pensez-vous?
Il ne faut pas se voiler la face, c'est un manque systématique de volonté politique. Et je le dis, le comité de pilotage fonctionne de manière régulière et ils ont fait des propositions. Les bateaux sont pour trouver des fonds pour accompagner le procès. Il reste à l'État guinéen de fournir les moyens nécessaires pour compléter l'enveloppe proposée par les bailleurs de fonds. Et à ce jour, l'État guinéen est en train de se... Pas plus tard que le 25 septembre, nous avons eu une audience avec le ministre de la Justice, garde des Sceaux, à qui nous avons demandé de nous expliquer réellement où on en est et qu'est-ce qu'il fait à attendre que ce procès se tienne. Deux arguments nous ont été avancés. Le premier, c'est que pour la constitution de la Cour qui doit juger les présumés responsables, on a besoin de magistrats de sécurité, mais aussi et surtout d'auxiliaires de justice. Ce qui suppose que la constitution de la Cour est subordonnée à la désignation de ces magistrats. Et je dis que ces magistrats ont besoin d'être psychologiquement préparés pour aborder tous les aspects liés au détail du dossier. Je dis donc que l'une des priorités, c'est la formation de ces magistrats. Deuxième priorité, l'appel a été retenu, la cour d'appel de Conakry a été retenue pour servir de cadre pour le procès. Qu'est-ce qu'il nous dit? C'est très restreint, il faut une extension, ce que nous rejetons. Mais nous estimons que la désignation des magistrats devant constituer la Cour, la formation de ces magistrats et les travaux d'extension de la Cour d'appel peuvent se faire de manière concomitante. C'est-à-dire que ce n'est pas incompatible de faire les deux actions à la fois. et cela nous permettra de faire avancer le dossier. Deuxièmement, nous lui avons donné un exemple terrassé. Lorsqu'il y a eu l'attentat de la résidence du président Alpha Condé en juillet 2011, on n'a pas pris un mois pour essayer d'organiser le procès, de juger et condamner les victimes, pardon, les présumés responsables. Parce que là, ça concerne le président Alpha Condé, c'est à des victimes. Pourquoi faut-il maintenant qu'on tire en longueur? C'est la preuve que c'est un manque de volonté politique. Sinon, les magistrats guinéens ont la capacité de connaître de ce dossier. On ne va pas me dire qu'un magistrat qui ne la trempe que ceux que je connais ne sont pas capables, qui ne sont pas formés, d'aborder un sujet aussi important que celui-là. C'est là où ça, où justement, c'est un manque de volonté politique exprimé vers ça. Allô?
Allô, oui, je suis là, Monsieur Diallo. C'est que le réseau, il n'est pas stable, quoi. Vous m'entendez?
Je vous entends.
D'accord, ok. Bon, merci beaucoup. Néanmoins, je vais essayer de, comme le réseau n'est pas trop stable là, je vais essayer de vous poser pratiquement une dernière question. Ça concerne, parce qu'avec tout ce que vous me décrivez là, j'ai l'impression que si, du moment où il y a un manque, comme vous avez pris un exemple très palpable sur l'affaire de coup d'État manqué contre l'actuel président et tout, donc là, ils ne sont pas passé de gauche à droite, ça n'a pas duré, ils n'ont pas tergiversé, et donc c'est aller vite, et pourquoi ça ne part pas vite ici, donc on le sait déjà, c'est un manque de volonté politique, c'est ce que je dis aussi, et du coup, est-ce que alors, il ne serait pas peut-être temps que la Cour pénale internationale, ou bien il ne serait pas louable que la Cour pénale internationale essaie de prendre les relais? Même si on le sait bien que c'est-à-dire la Cour ne réagit qu'en dernière position, c'est-à-dire et même si aussi quelque part je considère cette Cour pénale internationale comme étant une cour aux ordres du moment où on essaie de voir leur agissement sur le continent et tout cela, est-ce qu'il n'est pas temps peut-être que vous, comme vous avez votre plateforme, d'essayer de prendre contact avec la Cour pénale internationale pour essayer d'accélérer peut-être ce dossier à défaut de se saisir même du dossier pour que justice soit rendue pour les victimes?
Je peux vous dire que depuis qu'on a ouvert ce dossier-là, le bureau du procureur a fait 16 missions en Guinée. 16 missions qui ont toujours été suivies d'un acte que pose l'État guinéen. Et lorsque cette fois-ci, on a encore promis que le procès se tiendra à travers le discours du Premier ministre, l'Union européenne, l'ambassade des États-Unis, l'ambassade de France ont fait une déclaration commune pour inviter l'État guinéen à finalement ouvrir ce procès. Michel Bachelet, du bureau du Haut-Commissariat aux droits de l'homme, a envoyé une déclaration très forte et un signal très fort. Au-delà de ça, le bureau du secrétaire général adjoint chargé des violences basées sur le genre et des violences sexuelles en période de conflit, par la voix de Pamela, a envoyé un document extrêmement important au gouvernement guinéen. Nous n'avons rien contre le principe que la Cour pénale internationale puisse se saisir du dossier. Mais au nom du principe de la subsidiarité, la Cour pénale internationale est toujours tenue de prendre au mot les États qui ont promis d'organiser le procès dans leur pays. La seule possibilité que pourrait avoir la Cour pénale internationale, c'est de constater que l'engagement qui a été pris vise à procéder à des manœuvres dilatoires pour empêcher la tenue du procès et se saisir de ce dossier. Mais l'idéal aurait été que ce procès se tienne en Guinée pour trois raisons. 450 victimes constituées partie civile, si le procès se tenait à La Haye, il va être très difficile de mobiliser ces 450 victimes pour pouvoir obtenir une participation effective des témoins et des victimes. Deux, La Haye est un territoire hollandais. La Hollande a la souveraineté de dire s'il donne le visa à tel ou à tel. Donc, il n'est pas évident que les victimes puissent être là. Mais il n'est pas aussi évident qu'il y ait des moyens pour pouvoir garantir le séjour de toutes ces victimes. Deuxièmement, Ce procès, s'il se tient en Guinée, il est didactique. Vous avez dû remarquer, lorsqu'il y a eu le procès des gangs, comment la médiatisation de ce procès et la tenue de ce procès a permis à beaucoup de Guinéens de comprendre un certain nombre de détails liés aux règles juridiques. Nous estimons, nous autres, que la tenue du procès en Guinée a l'avantage de conduire, de créer les conditions d'une participation massive de la population guinéenne pour suivre le procès, mais aussi pour apprécier et comprendre que ce n'est pas toujours un manque. Il n'est pas obligatoire d'appliquer et d'obéir à un ordre manifestement illégal. Excusez-moi, je suis dans une route chaotique là.
Et non,
je suis en train de rentrer. Donc, un ordre manifestement illégal ne doit pas être exécuté, même si ça vient du supérieur hiérarchique. La troisième raison, c'est que nous estimons que si le procès se tient à La Haye, ce sont les gros cylindrés qui vont aller à La Haye. Cela ne va pas nous faire l'économie de prendre en charge les personnes qui ont obéi aux ordres et qui n'ont pas été interpellées et qui n'ont pas été conduites à La Haye. Cela ne devrait pas empêcher que le procès se tienne pour que ces personnes-là aussi répondent de leurs crimes. Donc je me dis que dans tous les cas de figure, la Guinée ne peut pas se faire l'économie d'un procès au niveau national si toutefois la Cour pénale internationale se saisissait du dossier. À la mesure où ce ne sont pas tous les inculpés qui iront à la Cour pénale internationale, et ce ne sont pas tous ceux qui ont commis des crimes jugés par la Cour pénale internationale. L'un dans l'autre, la Guinée doit faire face à la réalité et prendre en main le dossier. Soit en transférant tout ce qu'ils considèrent comme brûlot à la Cour pénale internationale, mais en traitant les cas du menu frétin qui a obéi à des ordres pour que nous puissions mettre fin à l'impunité en Guinée. Parce qu'il y a aussi ce passe-fait-là. Il ne faut pas que les gens passent par les mailles des filets lorsque l'on va transférer le dossier à La Haye. Il faut que la Guinée se sente responsable de la lutte contre l'impunité en essayant de faire le procès de ceux-là qui n'auront pas été pris en compte par la Cour pénale internationale. Voilà quelles sont les raisons qui militent en faveur de notre engagement pour que vraiment il y ait un procès en Guinée.
D'accord. Voilà, donc là, je comprends, c'est des raisons vraiment valables, c'est des arguments réellement solides, et là, j'apprécie, mais seulement, le seul problème, c'est que, comme vous l'avez si bien dit, vous l'avez si bien démontré, ce manque de volonté politique de la part du gouvernement guinéen, et comme tout est politisé dans ce pays, tout est ethnisé dans ce pays, je me demande, c'est jusque quand encore on va attendre la date du procès, c'est-à-dire si le procès, avec dans la situation actuelle, ne risque pas encore de s'éterniser. Et là, ça va naturellement, jouer non seulement sur l'image de la Guinée, mais bon, c'est pas étonnant parce que du moment où les tenants du pouvoir actuel pratiquement n'en ont cure de l'image de la Guinée en matière de respect des droits de l'homme, parce que voilà, sinon c'était une occasion quand même de prouver à la face du monde que la Guinée essaie de tourner la page de l'impunité, que l'impunité pratiquement ça n'a pas sa place en Guinée. Le déni de justice, ça n'a pas sa place en Guinée. On devrait quand même essayer de prouver à la face du monde qu'on veut tourner la page, que nous voulons instaurer un État démocratique, un État basé sur les principes démocratiques et puis voilà, où chaque citoyen a le droit d'y vivre paisiblement dans le respect de ses droits, et malheureusement tel n'est pas le cas. Maintenant, en gros, avant de terminer, je vais essayer de vous poser une question concernant la situation des droits de l'homme en Afrique, parce que vous êtes familier de beaucoup de dossiers, le dossier du cas du Burundi, par exemple, et nous savons aussi très bien la charte africaine des droits de l'homme, c'est l'une des meilleures chartes au monde, mais quand on regarde la situation des droits de l'homme en Afrique, et partout, pratiquement, tout n'est pas rose. Il y a encore beaucoup de violations et tout cela. La femme pratiquement a du mal encore à s'en sortir dans ce pays. Ses droits sont le plus souvent violés et tout. Elle fait partir de cette couche encore qui est vulnérable et tout. Vous qui êtes expert en la matière, quel avenir comportez-vous effectivement à l'Afrique en matière de respect des droits de l'homme, des droits de la femme et de l'enfant? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire?
Le combat, il est entier avec les questions liées aux droits de la femme. Je le dis parce que le protocole de Maputo, par exemple, est l'un des protocoles les mieux élaborés en termes de droits de la femme. Mais tout le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que les États africains s'empressent de ratifier tous les textes qui sont mis à leur disposition ou qui leur sont soumis, et ils n'ont pas le courage politique de mettre en œuvre les instruments de ratification qu'ils ont eu à déposer. Et c'est un peu un phénomène de mode. Vous avez souvent l'impression que les gens ratifient pour se faire plaisir ou pour qu'on dise qu'ils sont respectueux des droits de l'homme. Le protocole de Maputo est un protocole assez innovant et je peux vous dire même que le protocole de Maputo a des qualités qu'on ne peut pas trouver dans la Convention sur les droits de la femme, la CIDO. Et parlant du Burundi, qu'est-ce qui fait aujourd'hui le problème au niveau du Burundi? C'est que le protocole de Maputo n'est pas ratifié. Et si le protocole de Maputo n'est pas ratifié, c'est bien parce qu'il y a des cultures et des pesanteurs culturelles qui font que la question de la succession au niveau du protocole de Maputo ne fait l'objet d'aucune contestation et d'aucune équivoque. Or, cela pose un énorme problème dans la communauté burundaise du fait que jusqu'à date, la question de la succession et la question du foncier sont des questions qui sont traitées par le droit coutumier. Et imaginez un territoire de 28 000 km² pour 12 millions d'habitants. Le plus gros problème qu'ils ont aujourd'hui, c'est un problème lié à la gestion du foncier. Comment repartir le peu de terre qu'il y a entre la grande masse qu'il y a? Et c'est l'une des raisons fondamentales d'un certain nombre de complications que vivent ces États-là, depuis l'indépendance. Donc, je me dis aujourd'hui que si le protocole de Maputo est considéré comme étant très innovant, les États africains n'ont pas l'impression que ce protocole les interpelle sur leur rôle vis-à-vis des femmes. Et il y a également qu'un combat doit être mené, comme je l'ai dit, dans la lutte contre l'impunité. Il ne faut pas que les gens aient l'impression que la question liée aux droits des femmes ne concerne que les femmes. C'est-à-dire qu'il faut que les gens sortent de la logique que je ne suis pas concerné par ceci. Et qu'on mette en place une plateforme nationale au niveau de chaque pays pour essayer de porter les messages et d'engager un combat en vue de respecter les règles qui régissent un peu la vie de chaque citoyen. Le principe qui veut que, aussi longtemps qu'on n'aura pas fait respecter les règles qui régissent les femmes, on aura laissé de côté plus de 50% de la population africaine qui, logiquement, devrait bénéficier des mêmes droits que les autres. Et je me dis que c'est encore toujours cette question de penser que la question des femmes concerne les femmes et ça ne concerne pas les autres. Ce qui est très regrettable.
Oui, d'accord.
Parce que dans nos sociétés traditionnelles, je prends la Guinée et je prends notre communauté. Il n'est pas rare d'entendre dire que la femme ne doit pas hériter de terre, que la femme ne doit pas hériter du fusil, que la femme ne doit pas hériter de la maison. Mais quand il y a une succession en termes d'héritage du foncier, du fusil et d'une maison, quand les garçons. Or, le protocole de Maputo ne le dit pas. Et nous avons ratifié le protocole de Maputo en Guinée. C'est chez nous que vous voyez qu'on vous dira peut-être que dans le partage de l'héritage, la femme a droit à la moitié de ce que l'homme doit gagner. Le principe de l'égalité et de non-discrimination basée sur le sexe est déjà faussé. Mais ça s'applique dans nos sociétés sans tenir compte de ce que le droit positif nous impose. Et je suis sûr qu'à ce jour-là, vous qui avez eu une certaine éducation et qui avez une formation intellectuelle, si ce problème se pose au sein de votre famille, automatiquement les pesanteurs culturels vont essayer de s'abattre sur vous et vous empêcher de faire part de votre opinion ou alors de faire passer votre message. Il faut que chacun se sente concerné, aussi bien quand nos intérêts sont lésés que quand nos intérêts sont en jeu.
D'accord.
Voilà un peu ce que je peux.
D'accord, Monsieur Diallo. Franchement, c'est merci beaucoup pour tout ce que vous, enfin pour votre présence et tout cela. Je voulais savoir quel est votre dernier mot. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Est-ce que vous gardez encore espoir par rapport à l'ouverture de ce procès concernant les victimes du 28 septembre? Quel message vous voulez lancer à la diaspora guinéenne de partout dans le monde, parce que nous sommes écoutés dans plus de pratiquement 130 pays. Quel message avez-vous à lancer et tout cela afin que les gens s'intéressent effectivement à cette plateforme que vous aviez déjà lancée qui existe pour qu'on arrive à comprendre que cette histoire de défense des droits de l'homme, ce n'est pas une histoire d'ethnie, c'est une histoire de citoyens, c'est une histoire de personnes. Donc voilà, dites-nous votre dernier mot afin de clôturer
Moi, je voudrais juste appeler la diaspora guinéenne à comprendre que le combat qu'elle mène tous les jours chez les autres est le même combat que l'on doit mener au niveau de nos États. Moi, j'aime à dire très souvent qu'il y a une forte migration de la population guinéenne, notamment la population jeune, parce que les perspectives semble un peu obscurci. Donnons-nous la main, menons un combat collectif et considérons que tout le combat que nous menons est un combat pour la réussite, pour le succès de la Guinée. Nous devons être aussi fiers que des gens disent qu'il faut aller en Guinée. Nous préférons migrer vers la Guinée que de migrer vers l'Europe. Un rêve que je caresse, je ne sais pas si c'est chimérique, mais j'estime quand même qu'on est en mesure d'être au moins parmi les pays africains, on peut citer un exemple, même si on ne peut pas être cité un exemple parmi les pays occidentaux et asiatiques. Le deuxième message que je lance, c'est que la plateforme qui s'est mise en place est une plateforme qui est fidèle à un proverbe qui se dit chez nous en Afrique. Lorsque vous voyez un oiseau rapace se poser sur le cadavre de votre prochain, battez-vous pour que ce oiseau rapace ne déchiquette pas ce cadavre, parce que sinon ce sera un autre jour, votre cadavre sera déchiqueté. C'est dire que chacun de nous doit se sentir concerné et devons faire preuve de beaucoup de solidarité. Moi, j'ai hautement apprécié cette démarche que vous avez eue de nous interviewer pour nous dire, pour savoir un peu où est-ce qu'on en est dans le dossier de septembre. Et je souhaite que de telles interviews se fassent permettent à la diaspora guinéenne de comprendre qu'il y a une lutte qui se mène en Guinée, et cette lutte, c'est la lutte de tous les Guinéens et puis de paix, de justice et de respect des droits.
Ok, d'accord. Monsieur Diallo, c'est à nous de vous remercier. Merci vraiment d'avoir accepté notre invitation. Vous ne pouvez pas savoir combien de fois je suis honorée de vous avoir dans mon émission, dans notre émission Le Grand Débat de samedi, parce que je sais ce que vous avez fait pour moi quand j'étais en prison. Votre présence dans ma cellule en prison, ça m'avait réconfortée dans les temps quand j'étais encore en prison. Ça m'a donné de l'espoir et grâce à vous, en partie, je suis là où je suis aujourd'hui. Je dirais merci à vous, merci à toute votre équipe de l'OGDH Guinée, merci pour ce travail excellent que vous faites partout dans le monde, que Dieu vous garde, que Dieu essaie de vous accompagner dans vos démarches encore futures, que Dieu nous donne la chance de vivre encore un État guinéen plus stable, basé sur les principes de la démocratie et tout cela. Merci Monsieur Diallo, bonne soirée et voilà, à la
merci,
prochaine.
Madame. Et moi, je suis vraiment très à l'aise et très heureux de partager ces moments avec vous. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Bonne soirée et bon week-end.
Voilà. Merci, M. Diallo, hein, du côté de la Guinée. Hein, et en ligne déjà, l'avocat, okay. Maître Baldé. Maître Baldé est déjà en ligne avec lui. Nous allons enchaîner dans la seconde partie. Mais permettez qu'on prenne une petite pause. Monsieur Maître Baldé, restez bien en ligne. Hein. Donc, nous voyons bien le temps d'une petite pause. Je rappelle à notre partenaire du côté de la Guinée, en l'occurrence Radio Beta FM, du côté de la Baie, est en pause en ce moment. Dans 5 minutes, nous allons revenir pour pouvoir enchaîner cette interview. Je rappelle, là, nous allons toujours parler du dossier du 28 septembre, les massacres qui ont eu lieu en Guinée. Il y a 10 ans de cela, vous êtes sur Africa Midi et dans l'émission Le Grand Débat de samedi.
Oh, good morning.
And you understand when you call me Europia?
I've been around, you see, in the province of Sandito.
Oh, Mumatima, Mumatima,
Mumatima,
Mumatima, I told him I'm picking the rent. I run the province like I run the province money. Yo, come back, Kudu.
Yeah.
You have an Sandito.
Yes,
Mumatima, Mumatima.
Hello, c'est vous Sandito? S'il te plaît, mon frère, aide-moi à voir un crédit, s'il te plaît. Notre crédit est fini. Il n'y a pas de l'argent ici. Tout de suite là. Sans plus de ça. D'accord, nous sommes en temps ici. Ni ma mère. Tiens, monsieur. Tant qu'il
y a. Je suis
en train de se faire. Donc, le syndicat a fini de se faire. Opérateur Yoli, l'Afrique B, est un homme unité de Sambadima. Plus vite.
Vivez à l'étranger et vous souhaitez envoyer du crédit téléphonique à vos proches en Guinée, un seul intermédiaire, sendito.fr.
Un site internet pour votre blog, pour votre entreprise, pour vos affaires, pour votre association. N'hésitez pas à appeler son numéro 00-337-51-36-78-18. Je reprends 00-337-51-36-78-18. Voilà, tous les auditeurs d'Africa Midi bénéficient d'une réduction de 10%. Si vous voulez un site internet, vous pouvez les appeler, expliquer le contenu de votre site internet, les fonctionnalités que vous voulez, le nombre de pages, le design, entre autres. Sinon, un site internet à partir de 600 euros. Appelez ce numéro 00-337-51-36-78-18. Vous voulez votre site internet? N'hésitez pas, appelez-les.
Guinéinfo.org, un organe, une tribune vraie. Ne ratez rien de l'actualité guinéenne sur guinéinfo.org, un média au cœur des événements, des révélations époustouflantes. L'actualité guinéenne, africaine et internationale en un clic. Guinéinfo.org, le site de référence en Guinée depuis des années. C'est du tac au tac. Tout de suite, c'est direct sur guinéinfo.org.
Good morning.
And you understand when you call me Europia?
I've been around, you see, in the province of Sandito.
Oh, Mumatima, Mumatima,
Mumatima, Mumatima.
I told him I'm picking the rent. I run the province like I run the province money. Yo, come back, Kudu.
Yeah.
You have an Sandito.
Yes,
Mumatima, Mumatima.
Mumatima. Hello, c'est vous Sandito? S'il te plaît, mon frère, aide-moi à voir un crédit, s'il te plaît. Notre crédit est fini. Il n'y a pas de l'argent ici. Tout de suite là. Sans plus de ça. D'accord, nous sommes en temps ici. Ni ma mère. Tiens, monsieur. Tant qu'il
y a. Je
ne sais pas. Donc, le syndicat a fini de se faire. Opérateur Yoli, l'Afrique B, est un homme unité de Sambadima. Plus vite.
Quoi?
Il n'y a pas de crédit. 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 Il n'y ay tonya ga yebe he sandi to wona ko eto nan fi ndir site da ga mbi mali ma credit bela europe nu afrique tagi sandi to wontanara tout le temps vous êtes bravo vous êtes number 1
sandi to you get wrong on the far
left sandi
to nayama.
Vous vivez à l'étranger et vous souhaitez envoyer du crédit téléphonique à vos proches en Guinée? Un seul intermédiaire, senditou.fr.
Voilà un site internet pour votre blog, pour votre entreprise, pour vos affaires, pour votre association. N'hésitez pas à appeler ce numéro 00-337-51-36-78-18. Je reprends 00-337-51-36-78-18. Voilà, tous les auditeurs d'Afrique à Midi bénéficient d'une réduction de 10%. Si vous voulez un site internet, vous pouvez les appeler, expliquer le contenu de votre site internet, les fonctionnalités que vous voulez, le nombre de pages, le design, entre autres. Sinon, un site internet à partir de 600 euros. Appelez ce numéro 00-337-51-36-78-18. Vous voulez votre site internet? N'hésitez pas, appelez-les.
Guinéinfo.org, un organe, une tribune vraie. Ne ratez rien de l'actualité guinéenne sur guinéinfo.org, un média au cœur des événements, des révélations époustouflantes. L'actualité guinéenne, africaine et internationale en un clic. Guinéinfo.org, le site de référence en Guinée depuis des années. C'est du tac au tac. Tout de suite, c'est direct sur guinéinfo.org. Le devoir d'informer et le droit de savoir garanti.
3, 2, 1. Voilà, nous sommes de retour dans la seconde partie de cette émission, le grand débat du samedi avec Assad Sherif Baldé du côté de Hambourg. Le temps que notre second invité soit en ligne, en l'occurrence Maître Baldé, c'est l'avocat des victimes du 28 septembre, du massacre du 28 septembre. Assad Sherif, je ne sais pas si tu m'entends toujours du côté
oui,
de Hambourg.
Oui, je suis là, je t'entends très bien, et toi?
Oui, ça va très bien, la réception, elle est ok, très bien. Voilà, donc le temps que notre invité soit là, et sachant qu'on a également des auditeurs qui demandent à intervenir, mais d'un moment à l'autre, je pense que nous allons avoir l'avocat qui était déjà en ligne tout à l'heure, au moment de la conclusion de la première partie. Peut-être quelques mots par rapport à cette interview. C'est sûr que c'est un sujet qui est très chargé, à travers lequel on ne pourrait aborder que quelques points, certainement, le sujet de ce dossier des 28 septembre. Je ne sais pas si tu as quelques commentaires avant, peut-être qu'on enchaîne avec l'avocat quand il sera là.
Oui, d'accord, mais bon, tu sais, ben, quelque part, je me dis, avec la prestation de M. Diallo, tu vois, un petit peu, il y a Ibrahim Ahmed, c'est que je dis tous les jours, je dis, en Guinée, on a un sérieux problème, c'est-à-dire le problème de la Guinée, le plus souvent, c'est lié aux acteurs politiques, c'est-à-dire au manque de volonté politique des acteurs qui sont là, de part, c'est-à-dire de l'élite guinéenne en général, parce que tu as vu ce qu'il a expliqué, les gens qui sont dans l'opposition, peut-être pour des calculs politiciens, refusent de s'engager réellement pour essayer de leur donner un coup de main afin que ce deux si elle arrive, c'est-à-dire le procès elle arrive à aboutir, hein. Et du côté du gouvernement, naturellement, il y a un manque de volonté politique, donc pratiquement, c'est que dans ce pays, on continue de part et d'autre, même ceux qui sont là, qui se disent que voilà, ils sont pour le, c'est-à-dire pour l'instauration d'un État démocratique, en réalité, tel n'est pas le cas, parce que selon les explications que nous venons d'avoir, hein, c'est pas ce qui se reflète, et c'est ce que moi je critique, d'ailleurs, depuis j'ai vu le comportement de beaucoup de politiciens vis-à-vis de ce dossier de 28 septembre, ça m'a encore beaucoup plu, ça m'a donné raison, c'est-à-dire ça m'a réconforté dans ma position que j'ai pour dire que pour le moment, je préfère mener mon combat que je mène, mais je ne suis pas prête à adhérer à des partis politiques qui ne sont pas là, que moi je considère comme des noms politiques, pratiquement, qui ne sont pas là pour défendre l'intérêt du peuple. Sinon, ce dossier du 28 septembre n'allait pas continuer quand même à durer comme ça pendant 10 ans. 10 ans, c'est beaucoup pour une victime parce que moi, je n'ai pas... je crois que c'est comme si c'est l'avocat qui essaie de nous appeler là. Il essaie de m'appeler sur...
Ok, ben je te laisse alors gérer ça de l'autre côté, le temps que voilà qu'il soit certainement en ligne, Assad Sherif. Donc vous aurez compris, hein, bon, quelques points m'ont marqué certainement par rapport à cette interview. Le fait que le monsieur Diallo, hein, ait dit clairement qu'il y a un manque de volonté par rapport à ce dossier de la part du gouvernement guinéen. Alors ça, c'est très douloureux parce que nous savons que ce sont des crimes contre l'humanité qui ont été commis du côté de la Guinée en 2009. Et ces crimes contre l'humanité ont été reconnus par les Nations Unies, par les organisations internationales. Et ce qui s'est passé en Guinée, c'était quelque chose de dramatique, de horrible. D'ailleurs, je pense que à partir de 2009, bien entendu, avant 2009, il y a eu beaucoup de crimes, mais 2009 a aussi facilité dans l'inconscient collectif des criminels dans ce pays-là pour savoir qu'ils sont dans l'impunité totale, qu'ils peuvent faire des pauvres victimes en Guinée de ce qu'ils veulent. Vous vous rendez compte, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, on est en train de violer même des bébés de moins un, qui n'ont même pas un an en Guinée. C'est devenu le viol, les crimes sont devenus tellement une habitude en Guinée que c'est ancré dans le quotidien des Guinéens. Ce qui fait que quelqu'un peut être assassiné quelque part, les gens ne se rendent même pas compte. Les gens n'arrivent même pas à savoir s'indigner à la hauteur des crimes commis en Guinée. Le 28 septembre, avec des viols sur la place publique, dans le stade du 28 septembre, en pleine journée, cela doit avoir des conséquences. Et les conséquences, entre autres, c'est la banalité dans la commission des crimes en Guinée. C'est, voilà. Donc, aimables auditeurs, ça c'est quelque chose quand même qui doit interpeller tout le monde. Pour moi, cette question des 28 septembre, je ne sais pas, ça bloque. Jusqu'à combien de temps ça va bloquer, mais il va falloir qu'à un certain moment, que ce dossier soit débloqué et que les criminels, par rapport à ce dossier-là, puissent être traduits devant un tribunal. Je ne sais pas. Assad Chérif, si tu es de retour dans l'émission, notre débat du samedi, le temps toujours hein, qu'on puisse avoir en ligne notre second invité, en l'occurrence, Maître Baldé.
Oui, mais Maître Baldé me dit qu'il est en ligne. Bah, là, il me dit qu'il nous entend parler et là, je me demande comment il a fait. S'il a peut-être utilisé le live, enfin, je ne sais pas, peut-être le
Tu
le
vois, toi? Je ne sais pas si Maître Baldé a utilisé le numéro qu'on lui a envoyé pour pouvoir être en ligne. C'est ce numéro, justement. Si c'est ce numéro-là, je ne le vois pas ici. Je ne pense pas que ce soit le cas. En tout cas, je ne le vois pas ni avec un numéro de la France, ni pardon, de venant de la Guinée, ni avec un numéro des États-Unis, comme c'est souvent le cas, parce que parfois, partout de la Guinée, le numéro il est transformé. Mais pour l'instant, je ne le vois pas sur l'écran. Alors, tout à l'heure, hein, il était en ligne, on le voyait tout à l'heure sur Africa Midi. Écoutez, Assad Chérif, ce qu'on va faire, entre-temps, c'est d'échanger avec les auditeurs qui ont demandé la parole, autant qu'on puisse résoudre ce problème du côté de la partie technique. Alors, si tu es d'accord avec moi.
Vas-y là, parce que là, je suis en train de lui dire d'appeler le numéro encore. Hein. J'espère qu'il va...
Non, reste en ligne. Je vais te laisser avec les auditeurs. Je vais activer le micro d'un des premiers auditeurs. Voilà, que je vérifie bien. Oui, encore une fois, je n'ai pas M. Baldé sur mon écran pour pouvoir activer son micro. Alors, je vais donner la parole à quelques auditeurs et puis laisser avec toi, Assad Chérif, pour qu'on résolve ce problème du côté de la partie technique. Monsieur Ding City, du côté des États-Unis, à la frontière pour aller au Canada, si vous me recevez, bonsoir et bienvenue.
Bonsoir, Ibrahim Ahmed. Comment ça va?
Ça va, merci. Vous avez la parole, Assad Chérif.
Allez-y. Oui, ok. Je salue ma sœur Assad Chérif parce que, comme on dit souvent, elle est devenue une grande politicienne parce que on attend son combat en Guinée parce que on a senti qu'elle est une grande politicienne parce que son émission là nous édifie beaucoup et puis vraiment elle est la bienvenue au sein de Africa Midi parce que cette émission nous rapporte beaucoup surtout sur le côté du nord-est des États-Unis et du Canada parce que on la suit ici profondément. Et notre invité, notre premier invité, vraiment, ça a été très intéressant. Il sait la thèse qu'il développe. Et surtout, qu'elle a rencontré Assad Chérif, qui lui pose des questions, une politicienne déguisée qui connaît très bien le dossier. Et je crois qu'on ne peut pas, il ne peut pas se dérober. parce qu'il connaît le dossier et c'est la vérité. Le problème qu'on a en Guinée, c'est cette situation, que ce soit l'opposition et le gouvernement. Vous avez vu l'exemple qu'il a donné. Et quand il y a eu l'attaque du président, le domicile du président de la République, ça n'a pas fait un mois, on a trouvé tous les arguments pour faire passer le procès. Et voir qu'on a tué toutes les personnes là au stade, au-dessus et devant tout le monde, et avec tout ce qui s'est passé, et jusqu'à présent, combien d'années on est en train de lutter pour qu'il y ait un procès avec un professeur de droit, vraiment c'est regrettable. Et ne désarmons pas, continuons le combat, et je crois que toutes ces radios, y compris la grande radio Africa Midi, continuent de faire le combat pour qu'il y ait un procès, pour que l'opinion nationale et internationale soit saisie de ce dossier, et nous autres, on va continuer, Inch'Allah, pour qu'il y ait un procès, parce qu'il ne faut surtout pas désarmer. Et partout ici aux États-Unis, et que ce soit les associations en Europe là-bas, aux États-Unis, partout dans le monde, on va se battre pour qu'il y ait une alternance, une justice véritable pour tous, surtout pour ce qui s'est passé pour le 28 septembre, parce qu'on ne laissera jamais cette situation rester impunie. Donc, encore une fois, merci. Et merci beaucoup, Ibrahim, pour tout ce que vous faites pour cette radio. Et merci à ma sœur, à cette shérif. Surtout, le combat de la vérité dans la sincérité continue pour tous. Encore merci, le combat continue.
Bien, voilà. Le combat continue, c'est chérif. Hein. Je te laisse en citer un petit commentaire. Maître Baldi doit être là d'un moment à l'autre dans des conditions normales. Là. Sinon, je peux activer le micro d'un deuxième auditeur.
Oui, d'accord. Non, mais il a tout dit. Hein. Merci beaucoup, mon frère Dengue City. Voilà, c'est toujours un honneur aussi de t'entendre ici dans cette radio, parce que je crois que tu fais partie de ces personnes qui sont toujours là, qui encouragent et tout cela. Donc, ça fait plaisir. Hein. J'ai pas grand-chose à y ajouter.
Ça tombe bien. Notre invité est en ligne, Maître Baldé, du côté de la Guinée. Vous savez bien, donc la technologie, parfois aussi, ça nous fait des surprises.
D'accord.
Donc, il a bien appelé, il a entendu, mais moi, je ne le vois pas sur l'écran. Et c'est ça aussi. Maître Baldé, bonsoir et bienvenue sur Africa Midi.
Bonsoir à tous vos auditeurs.
Mais bonsoir, Monsieur Baldé. Bonsoir d'être venu. Finalement, ça a marché parce que là, je commençais à désespérer. Là, je pensais que ça allait pas, vous n'allez pas pouvoir peut-être nous appeler tout cela. Mais bon, c'est bien, ça a marché tout cela. Alors, merci d'être là. Merci d'être venu nous voir pratiquement pour parler de ce sujet si important, non seulement pour la diaspora guinéenne, mais aussi et surtout pour la communauté guinéenne partout où elle est, et pour le peuple de Guinée aussi, parce que comme on le sait très bien, nous savons très bien que le massacre du 28 septembre fait partie de notre passé récent en Guinée. C'est un passage, c'est un chapitre très douloureux de notre histoire qu'on ne peut pas taire. Et c'est l'une des raisons pour qu'on vous a invité, Monsieur Baldé, c'est pour en parler, Maître Baldé, pardon, parce que vous êtes l'avocat des victimes, vous allez essayer de nous parler du côté technique de tout cela, c'est-à-dire le dossier en question, où est-ce que nous en sommes avec. Nous avons eu tout à l'heure M. Diallo, le président de l'OJDH, que vous connaissez certainement, avec lequel nous avons eu à échanger sur beaucoup de choses, sur beaucoup de sujets très intéressants aussi et pertinents. Nous voulons aussi connaître votre avis, surtout parce que je me dis, vous, de votre côté, vous êtes encore beaucoup plus en contact avec les victimes. Donc, ça veut dire que vous avez réellement la maîtrise du dossier, vous connaissez les tenants et les aboutissants de ce dossier pertinent et c'est-à-dire de ce passage douloureux de la Guinée, des Guinéens. Et c'est pourquoi on vous a invité ici ce soir. Alors, Monsieur Baldé, Maître Baldé, parlez-nous, pardon, de votre parcours. Présentez-vous à nos auditeurs, s'il vous plaît.
Donc, comme vous l'avez dit, mon nom est Thierno Flan Baldé. Je suis guinéen, j'ai fait mes études primaires et secondaires ici avant de me rendre en Suisse, où j'ai fait ma maîtrise en droit à l'Université de Lausanne, avant de faire un master en droit européen et droit international économique à l'Université de Genève. De la Suisse, je me suis rendu aux États-Unis où j'ai fait deux masters à l'Université américaine de Washington DC et puis un autre master à l'Université de Stanford en Californie avant de travailler pendant très longtemps à la Banque mondiale et puis d'autres banques privées. Et puis finalement, j'ai décidé de rentrer en Guinée parce que dès le début, mon objectif a toujours été d'aller sur place, acquérir une bonne expérience et une bonne éducation et venir me battre ici. Comme vous le savez, vous avez vécu ici. Et autrement, vous revenez de temps en temps, vous connaissez les conditions de vie ici. Mais nous ne devons pas faire des illusions. Si effectivement nous devons changer la Guinée, il faut qu'on revienne ici, il faut qu'on se batte malgré toutes les difficultés, malgré les intimidations, les menaces et tous les risques par rapport même à notre vie. Si effectivement on ne revient pas, si on ne se bat pas, malheureusement, on va se retrouver comme dans la situation actuelle où ce sont des médiocres qui sont au pouvoir, qui décident de notre vie, de notre avenir et c'est celui de nos enfants. Et ça, nous ne pouvons pas nous le permettre indéfiniment. Nous avons vécu des événements assez tragiques en Guinée. On est en 2019. Il faut qu'on arrive à espérer avoir une vie meilleure, parce que le bon Dieu nous a doté suffisamment de richesses si effectivement elles sont exploitées et gérées d'une manière saine. Cela pourrait permettre à tous les Guinéens, au-delà de ceux qui vivent ici, de revenir et avoir une vie décente. Donc, malgré toutes les difficultés, j'essaie de me battre ici dans la limite de mes possibilités et afin de faire évoluer non seulement la question des droits de l'homme, mais aussi celle de bonne gouvernance.
D'accord. Là, déjà, c'est honorable, monsieur Maître Baldé. Franchement, merci pour tout ce que vous faites. Que Dieu vous accompagne. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Et alors, on va essayer de rentrer dans le vif du sujet, qui est les massacres du 28 septembre 2019. Et comme vous le savez très bien, étant avocat, étant sur le terrain, je veux dire, étant sur le terrain dès le départ déjà, vous êtes impliqué dans ce dossier, vous savez pratiquement ce qui se passe, vous connaissez l'évolution du dossier. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à l'évolution de ce dossier du 28 septembre en Guinée? Qu'est-ce que vous en savez? Et depuis quand vous êtes en charge du dossier du 28 septembre, Monsieur Baldé?
Donc, je tiens tout à préciser tout d'abord. Vous savez, il y a un pool d'avocats qui travaille dans ce dossier depuis le début. Donc, il faut vraiment, comme on dit, rendre à César ce qui appartient à César. Je ne suis pas le seul avocat qui travaille dans ce dossier. Il y a un pool d'avocats qui a été constitué par l'OGDH, FDH. Et là, il y a d'autres avocats qui travaillent depuis le début dans ce procès sans demander un centime, et ça aussi je le précise puisque c'est important, nous les avocats qui n'ont pas été constitués par OGDH ou bien FDH, nous travaillons d'une manière bénévole dans ce dossier, on ne demande pas un centime, tout ce que nous le faisons puisque nous estimons ça doit être fait pour rendre justice aux victimes. Donc depuis le début, l'événement du 28 septembre, ce jour-là, malheureusement, moi, je n'étais pas ici, j'étais à Accra pour une conférence, parce que autrement, je ne sais pas ce qui serait arrivé, parce que je sais, j'aurais été au stade ce jour-là. Mais je suis revenu une semaine après, et depuis lors, on a mobilisé les gens pour essayer justement de veiller à ce qu'il y ait justice pour les victimes et qu'on ne puisse pas, comme d'habitude, garantir l'impunité aux auteurs qui ont commis ces crimes. Dès le mois d'octobre 2009, nous avons organisé une grève la faim avec des jeunes venant de toutes les régions de la Guinée afin de demander justice et qu'il n'y ait plus de violence comme celle que nous avons connue le 28 septembre 2009. Mais malheureusement, au lieu à l'époque que les autorités nous soutiennent, Thiebro est venu nous arrêter au niveau de la maison des jeunes de Dixine-Port. Il nous a amenés au camp Alfayéa. Et selon lui, organiser une grève la faim. En Guinée, c'était la première fois et c'était une forme de terrorisme moderne, selon lui. Il nous a fait torturer de 8h du soir jusqu'à 2h du matin. On a eu l'avis, puisque avant qu'on entame la grève la faim, j'avais pris soin de confier les numéros de téléphone de certaines personnes à contacter en cas de problème. Et heureusement, dès le lendemain matin, il y a eu des amis qui ont été contactés à travers le monde, puisque que ce soit au niveau de la CDAO, les Nations Unies, l'Union africaine, la France, et ainsi de suite, ils ont été contactés. Il y a eu suffisamment de pression pour exiger notre libération immédiate. Donc, on a exigé à ce qu'il y ait des négociations afin de permettre à tous les acteurs impliqués de trouver une solution et d'éviter à la Guinée de commettre un autre drame. Et depuis lors, je me suis impliqué, puisque au début, ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'était assez difficile même de rencontrer les victimes en question. Puisque ceux qui ont eu la vie sauve sont rentrés chez eux, ils n'osaient même pas sortir. Donc s'ils n'avaient pas confiance à celui ou bien à celle qui les contactait, ils n'osaient pas du tout accepter de rencontrer quiconque. Et compte tenu de mon travail sur le terrain, la connaissance que j'avais établie avec beaucoup de gens, j'ai pu identifier pas mal de victimes. Et lorsque Human Rights Watch est venu ici pour la première fois, les Nations Unies, certains journalistes, j'étais l'une des personnes qui a permis de rencontrer les victimes, de les faire interviewer et surtout de sauvegarder certains nombres de preuves. Il y a eu, comme vous le savez, les enquêtes préliminaires avec à l'époque la commission qui avait été mise en place par le CNDD, dont certains acteurs qui ont tourné la veste puisqu'ils se disaient qu'ils travaillaient pour les droits de l'homme. Mais malheureusement, comme vous le savez, en Guinée ici, tout est en fonction en fait des intérêts. Mais on a pu travailler, recueillir pas mal de preuves. Et ensuite, il y a eu la mise en place d'un pool de juges d'instruction avec la pression de la communauté internationale et afin d'éviter aussi que le dossier ne soit transmis au niveau de la CPI pour mener des enquêtes. Et je me suis constitué, on a suivi le dossier depuis le début et il y a eu des enquêtes, mais je vous dis d'ores et déjà, ces enquêtes ont été menées dans des conditions très difficiles parce que les juges en question n'avaient pas suffisamment de moyens logistiques pour mener le travail avec la qualité requise. Mais que cela n'en tient, ils ont fait leur enquête, ils ont déposé leur ordonnance en inculpant à l'époque 14 personnes. Et l'ordonnance a été transmise au niveau du parquet et puis il y a eu des appels au niveau de l'ordonnance. Le dossier est passé au niveau de l'ensemble de l'instruction de la Cour d'appel de Conakry, ensuite au niveau de la Cour suprême. Pour ne pas s'allonger davantage, il y a eu un arrêt qui a été rendu par la Cour suprême. Désormais, il n'y a absolument aucun obstacle à l'organisation du procès en ce qui concerne la procédure en tant que telle. Il y a eu deux personnes qui ont été innocentées dans le dossier. C'est notamment colonel Matrin Bangoura et colonel Lama, qui était à l'époque le commandant adjoint du camp militaire de Kalia. Et puis les crimes ont été requalifiés puisque tous les critères liés à ces massacres démontrent qu'il s'agissait en fait de crimes contre l'humanité. Mais les juges ont décidé de requalifier les faits. Au lieu que ce soit des crimes contre l'humanité, ils ont qualifié de crimes simples. Donc, à ce stade, sur le plan de la procédure en tant que telle, il n'y a absolument aucun obstacle au niveau de l'organisation du procès. La question qui se pose maintenant, comme M. Diallo l'a dit un peu plus tôt, c'est la volonté politique pour veiller à ce qu'il y ait un engagement ferme pour mettre en place tout ce qui est lié aux logistiques, la question financière, la sécurité, notamment en veillant à ce que les victimes, les auteurs soient suffisamment sécurisés afin que le procès soit organisé. Donc voilà où on en est au niveau du dossier.
D'accord. Et je vais essayer de vous poser des questions techniques, hein, monsieur Maître Baldé, parce que là, vous avez parlé, vous avez dit il y a eu 14 personnes qui ont été inculpées et finalement, on n'a pas retenu le fait que ce soit un crime contre l'humanité, mais tout simplement un simple crime. Et pour pratiquement, il y a une ordonnance de la part de la Cour, je crois, de la Cour suprême, que le procès peut se tenir et l'obstacle se trouve, disons, au niveau du gouvernement dû au manque de volonté politique. Mais moi, je me dis déjà, là, il y a un problème, parce que si je me souviens bien, je crois qu'il y a eu à peu près une centaine de personnes qui ont agi, c'est-à-dire armes à la main, dans le stade de 28 septembre. Si on me dit aujourd'hui qu'il n'y a que 14 personnes qui sont inculpées, c'est que ça fait peur, hein, parce que ça encourage effectivement la culture de l'impunité en Guinée. Ça, c'est ma première question. Pourquoi pratiquement il n'y a eu que 14 personnes qui ont été inculpées, du moins où il y a eu plus de 100, je dirais 100 personnes qui ont agi armes automatiques, avec armes automatiques, disons avec armes à la main dans le stade. Vous comprenez ce que je veux dire? Et là, et aussi, d'un autre côté, je me dis, si les magistrats ont, pourquoi les magistrats ont essayé, parce que, à ce que je sache, le dossier a été bouclé en décembre, en fin d'année 2017. Hein. Pourquoi les magistrats ont essayé, ils ont préféré choisir, c'est-à-dire le terme crime simple par rapport à crime contre l'humanité? Parce que là, ça dénature complètement le dossier en question. Vous savez très bien, vous êtes juriste, hein. ça n'a plus le même poids. Ça n'a plus même un crime simple, ça peut être n'importe quoi. Vous savez, vous connaissez peut-être sûrement la définition de crime plus que moi. Je suis juriste de formation, mais je ne travaille plus trop dans ce domaine. Mais bon, et crime contre l'humanité, ça a une autre connotation, ça a une autre signification. Et là, j'ai l'impression que les massacres du 28 septembre, que moi je considère comme un crime contre l'humanité, a été complètement donc dénaturé, si je comprends bien. Qu'est-ce que vous en pensez?
D'abord, pour revenir à votre première question, concernant notamment justement, l'inculpation des 14 personnes, oui, seulement par rapport justement, aux faits qui ont été commis, vous savez, dans ce genre de dossier, en fait, les responsabilités sont à des niveaux différents. Il y a d'abord les commanditaires, c'est-à-dire ceux qui ont vraiment donner les ordres qui ont poussé les gens à aller agir. Et ensuite, il y a les responsabilités intellectuelles, ceux-là qui ont participé aux différentes réunions, ceux qui ont recommandé à ce que les massacres soient commis. Et ensuite, il y a ceux-là justement qui ont exécuté les ordres, qui ont été au stade, qui ont tiré sur les gens. Et généralement, ceux qui sont justement les commanditaires, ceux qui ont la responsabilité intellectuelle, ceux qui ont vraiment agi en donnant les ordres, ils sont beaucoup plus graves, parce que si ces gens-là, si effectivement, ils n'avaient pas à l'époque donné les ordres, c'est sûr et certain que les soldats n'auraient pas été au stade pour commettre les actes qu'ils ont commis. Donc c'est extrêmement important que ces gens-là, en principe, soient traduits devant les tribunaux compétents, enfin, justement, que la justice soit faite et surtout éviter que de tels crimes soient commis à nouveau. Et c'est là qu'on a espéré, justement, qu'ils ont commis ces actes. Il y a, à l'époque, capitaine Moussa Dadis Camara, qui était le chef de la junte au pouvoir au moment des faits. Il y a son ex-aide-de-camp, le lieutenant Aboubakar Sidiki dit Toumba. Il y a le colonel Claude Pivi, alias Kopolan, il paraît, qui n'était pas au stade, mais qui a joué un certain rôle au lendemain des massacres, notamment à ce qui concerne la dissémination des victimes dans des fosses communes. Il y a l'actuel chargé de la sécurité qui est chargé actuellement de la sécurité présidentielle. Il y a colonel Moussa Thiebro Camara qui était au stade, qui ont même secouru certains leaders politiques. Il y a qui est à la tête du secrétaire d'État chargé de la lutte anti-drogue et des crimes organisés, et qui, à l'époque de fait, était le commandant d'une unité d'élite de la gendarmerie. Et il y a ensuite général Toto Camara, qui était l'un des vice-présidents du CNDD. Il y a le capitaine Bienvenu Lama, qui était le responsable de la milice qui stationnait au camp de Kalia à Forêt-Karia. Donc ce sont ceux-là qui ont été, en fait, inculpés. Maintenant, les soldats qui étaient sur le terrain, qui ont commis les actes, en principe, si effectivement il y a une enquête judicieuse, d'abord au niveau de la phase préliminaire, ensuite au niveau de juge d'instruction, ça aurait pu permettre d'identifier ceux qui sont venus et massacrer, violer les femmes. Et là aussi, je précise qu'il y a eu, selon le rapport des Nations Unies, 109 femmes qui ont été violées. Donc, quels sont ceux-là qui sont venus au stade, qui ont commis ces actes? On aurait pu les identifier physiquement. Mais comme vous avez suivi, au niveau de l'instruction, il y a eu des problèmes assez énormes au niveau des magistrats afin de pouvoir interroger les différents inculpés. Ils ont fait leur travail, mais je vous dis honnêtement, on aurait souhaité que ce travail soit mieux fait pour servir d'exemple en cas de situation similaire dans l'avenir. Mais comme on dit, on se contente de ce qu'on a pu obtenir jusqu'à maintenant. Mais on aurait pu faire davantage. Donc, tous ceux qui ont été inculpés, on estime que ce sont en fait les commanditaires de massacre en tant que tel, si ce n'est pas colonel Moussa Tchéburu Camara, lieutenant Aboubakar Sidiki, dit Toumba. Ce sont les deux qui étaient à l'époque au stade, qui ont été vus au stade. Mais les autres, ils n'étaient pas au stade. Et n'oubliez pas, il y a aussi le cas, à l'époque du ministère de la Défense, le général Konaté, qui n'a jamais en fait été inculpé en tant que tel. Et là aussi, il y a des questions qui sont posées par rapport justement au fait qu'il n'a même pas été inculpé, alors qu'on sait le rôle à l'époque qu'il jouait au niveau du CNDD. Donc, il y a tous ces problèmes qui se posent. Donc, il y a vraiment encore énormément d'efforts à faire, puisqu'il faudrait nécessairement, au-delà de ceux-là qui ont été inculpés, que l'enquête soit approfondie afin d'identifier, au-delà des commanditaires, ceux qui ont effectivement exécuté les ordres et qui ont massacré non seulement beaucoup de jeunes Guinéens, mais aussi qui ont violé beaucoup de femmes. Donc, si ce travail n'est pas fait, cela risque en fait de se répéter à nouveau dans notre pays. Puisque vous voyez par exemple, en ce moment avec les tensions qui existent, les tensions politiques, on ne sait pas ce que demain matin nous réserve. Donc cela constitue vraiment un problème fondamental. Maintenant, au-delà, il y a la définition des crimes contre l'humanité en tant que tel. Comme vous l'avez dit, effectivement, cela pose un problème de qualifier des crimes contre l'humanité à des crimes simples. Et vous le savez très bien, les crimes contre l'humanité ont été définis depuis 1945, notamment à l'époque par le tribunal militaire de Nuremberg après la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est vraiment une violation délibérée des droits fondamentaux des individus, un groupe d'individus, inspirés par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux. Donc quand vous prenez ce qui s'est passé au niveau du stade, ces massacres ont été commis pour des causes politiques et par un groupe déterminé contre un groupe déterminé. Et ces massacres vont au-delà des crimes simples et faire violer des femmes en plein jour noir. Une chose que nous n'avons jamais vue en Guinée. Aller découper des gens, c'est des choses qu'un être humain, dans les conditions normales, ne peut jamais imaginer à plus forte raison commettre de tels actes. Donc cela, effectivement, sont des crimes contre l'humanité. Mais, pardon, nous ne pouvons pas aller au-delà de ce que les tribunaux décident. Même en ce qui concerne ce crime simple, on a tous les problèmes du monde pour pouvoir justement traduire les auteurs devant les tribunaux afin qu'il y ait un procès juste et équitable. Donc cela vous démontre tout le problème qui se pose à la Guinée, surtout ce manque de volonté politique pour qu'il y ait une justice pour les victimes.
D'accord, ok. Donc, si je vous comprends bien, selon ce que je comprends, ces magistrats même qui ont essayé d'instruire en tous ces gens, c'est-à-dire, je dirais, du moment où la justice guinéenne n'est pas une justice indépendante, en gros, ce sont des magistrats aussi qui sont aux ordres. Donc, vous qui êtes là, qui vous battez pour qu'il y ait quand même un procès, vous vous contentez du peu qu'on vous donne à défaut de faire mieux, parce que vous savez aussi en droit, il y a ce qu'on appelle la théorie de la baïonnette intelligente. Donc, par rapport à ces gens, à ces soldats qui étaient sur le terrain, normalement, ils sont aussi concernés, tout comme naturellement leur chef et tout, qui leur ont donné des ordres, parce qu'ils pouvaient refuser aussi d'exécuter ces ordres-là qui sont faits dans un cadre illégal, hein, vous comprenez un tout petit peu. Mais comme nous avons affaire à un État défaillant, c'est-à-dire où la justice n'est pas indépendante, nous avons une justice qui est aux ordres, donc ça complique tout, ça complique l'enchaînement même de cette procédure pénale et tout cela, mais je trouve quand même jusque-là ahurissant qu'on essaie de changer complètement, c'est-à-dire le terme crime contre l'humanité, on essaie de le réduire, c'est-à-dire un crime simple. Ça, c'est déjà insultant, je trouve, vis-à-vis même, c'est-à-dire des victimes et vis-à-vis de la Guinée. C'est pourquoi je dis, Cela aussi s'explique aussi peut-être parce que il y a de nos jours beaucoup de personnes aussi qui sont condamnées, qui sont inculpées, qui jouissent jusque-là d'une certaine impunité, comme le cas de Tiégoro et bref, j'en passe. Nous savons aussi en Guinée qu'actuellement, l'arrestation de Toumba, naturellement, ça a donné de l'espoir aux victimes et tout cela, c'est vrai. Mais est-ce que, selon vous, l'arrestation de Toumba ou bien son implication officielle n'est pas une stratégie de défense qui se borne, c'est-à-dire à le désigner comme le bouc émissaire? Parce que selon les informations que j'ai eues, beaucoup de personnes l'ont identifié comme cette personne, comme la personne commanditaire. Qu'est-ce que vous en pensez?
Vous savez, d'abord, il y a beaucoup d'informations qui ne sont pas connues du public. Et c'est la raison pour laquelle, s'il y a effectivement un procès, cela permettrait au public de savoir réellement ce qui s'est passé et puis la responsabilité des uns et des autres. Au lendemain de ces événements, vous savez, il y a eu l'altercation entre justement Toumba à l'époque avec capitaine Dadis Camara. Donc, il s'est enfui puisque s'il ne l'avait pas fait, il aurait pu être liquidé. Et s'il avait été liquidé, on aurait tout mis sur sa tête pour dire qu'il était le seul responsable. Et il est parti de la Guinée, mais pendant très longtemps, tout le monde savait qu'il était à Dakar. Il ne se cachait pas. Les gens le voyaient. Donc, ce n'était pas en fait un secret en tant que tel. Et s'il y avait une volonté politique de veiller à ce qu'il y ait un procès, depuis son retour, on aurait pu en fait organiser ce procès depuis longtemps. Et n'oubliez pas, dans les conditions normales, puisque même si effectivement la personne désignée auteur des actes en question, mais elle bénéficie de certains droits qui sont contenus dans le code pénal. Et les prévenus en matière de crime, en principe, ils doivent les détenir entre 18 et 24 mois. Au-delà de cette période, ils doivent bénéficier soit d'un procès ou bien être libérés. Donc moi, mon inquiétude, c'est surtout à ce niveau-là, puisque les magistrats, tout ce qui a été fait, est fait d'une manière, si effectivement, il y a un jour un procès, et que la loi soit correctement appliquée, il serait assez difficile de condamner ces personnes, tout simplement parce qu'il y a eu des négligences. Voyez-vous, dans le procès de Roland Babo au niveau de la CPI, tout le monde sait combien de personnes ont été massacrées en Côte d'Ivoire. Aucune personne ne le nie. Mais si vous voulez justement rendre telle personne responsable, il faudrait que vous rapportiez non seulement les preuves, mais au-delà des preuves, il faut aussi que ces preuves-là soient recueillies respectant les dispositions légales. Que ces prévenus bénéficient du respect de tous les droits que les accordent, non seulement la Constitution, mais aussi le Code pénal. Et si cela n'est pas fait dans les conditions normales, il devrait être purement et simplement libéré. Donc c'est important qu'on ne perde pas de vue, puisque nous voulons qu'il y ait un procès juste et équitable. Nous ne voulons pas qu'il y ait un simulacre de procès. Donc si on va dans cette direction, c'est important que le procès soit organisé maintenant. Et surtout, il y a eu beaucoup de dysfonctionnements au niveau de l'enquête préliminaire, mais qu'on essaie quand même d'organiser le procès maintenant afin de permettre de rendre justice au niveau des victimes. Vous avez mentionné justement, dans le cas des crimes contre l'humanité, tout le monde le sait, lorsqu'il y a une attaque généralisée et systématique qui est dirigée contre une population civile, notamment comme s'il y a des meurtres, d'esclavage ou bien des déportations, des abus sexuels, des persécutions de masse, des disparitions, c'est ça qui constitue des crimes contre l'humanité. Et c'est exactement ce qui s'est passé au stade du 28 septembre. Donc, en aucun cas, on n'aurait pu réqualifier ces faits de crimes simples et d'abandonner la notion de crime contre l'humanité. Nous avons fait appel, on a déposé des mémoires qui le justifient, mais une fois de plus, la dernière décision revient à la justice. On a passé ce stade, il y a eu un arrêt de la Cour suprême. Qu'on essaie maintenant d'organiser au moins le procès afin de respecter le droit des prévenus, mais de permettre aussi aux victimes d'obtenir justice, de savoir réellement qu'est-ce qui s'est passé. Puisque, vous rappelez très bien, il y a eu des massacres de 1985, il y a eu les massacres de 2007, il y a eu le massacre du 20 septembre. Et au-delà, depuis l'arrivée au pouvoir du professeur Alpha Condé, il y a plus d'une centaine de personnes qui ont été tuées. Donc la Guinée est connue pour être vraiment un pays de non-droit quand il s'agit justement de crimes commis par l'État. Donc il faudrait à un moment donné que cela puisse s'arrêter et que désormais quiconque porte atteinte aux droits fondamentaux d'un citoyen, qu'il réalise tôt ou tard, ils vont devoir rendre les comptes devant la justice. Si cela n'est pas fait, malheureusement, cela risque de se répéter dans l'avenir. Donc, nous devons nous battre pour qu'il y ait ce procès, mais je doute très fort qu'il y ait une volonté politique de la part de ce gouvernement d'organiser ce procès, puisque tout ce que ce gouvernement pose comme acte, c'est calculé à l'avance en termes politiques. Quel gain politique nous allons en tirer? Et si effectivement, ils savent qu'il peut y avoir un élément quelconque qui pourrait entraver les bénéfices politiques qu'ils peuvent en tirer, ils ne le feront pas. Et on est à la veille de l'organisation des élections législatives. Et puis, il y a les élections présidentielles qui viennent bientôt. Il sera assez difficile d'organiser le procès dans ces conditions avec justement ce qui s'est passé depuis l'arrivée au pouvoir du professeur Alpha Condé. Donc, c'est un souci que nous avons. Et nous espérons, avec la pression de la communauté internationale, vous avez suivi la déclaration de Michel Bachelet, la haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, qui a demandé vraiment à ce qu'il y ait un procès maintenant. Et si effectivement, il n'y a pas la volonté de faire un procès, puisque c'est l'une des conditions aussi de la saisine de la Cour pénale internationale, s'il y a un refus ou bien l'incapacité d'un pays à organiser un procès pour tel massacre, il faudrait que la CPI reprenne la main et organiser un procès pour rendre aux victimes une justice.
D'accord, monsieur Maître Baldé. Si je vous comprends bien, vous savez, il y a de sérieux problèmes autour de ce procès-là. Vous parlez de manque de volonté politique du gouvernement. Et donc, le terme « crime contre l'humanité » a été réqualifié parce que pour moi, ça, c'est une façon de sortir complètement, c'est-à-dire de réduire même l'intensité du terme en tant que tel, c'est-à-dire du procès en tant que tel, c'est-à-dire de le banaliser, en fait, comme on a toujours banalisé la mort d'homme en Guinée, c'est-à-dire la vie de l'être humain banalisée, parce qu'en faisant cela, pour moi, on banalise déjà la mort de toutes ces personnes-là, on banalise pratiquement toutes ces victimes. Et dans l'enquête préliminaire, est-ce qu'il y a été question, c'est une question que je vous pose, est-ce qu'il y a été question de prendre en compte, c'est-à-dire de ces personnes qui sont disparues. Est-ce qu'on en a fait cas? Il y a une enquête, qui a été ordonnée par les magistrats là-dessus pour essayer de voir le nombre de personnes qui ont disparu, parce qu'il y a quand même des personnes qui sont portées disparues, on ne sait pas où est-ce qu'ils sont. On parle de fosses communes. Qu'est-ce que vous en pensez? Et de l'autre côté, parce que vous me parlez des difficultés que vous rencontrez, vous êtes un avocat, vous faites ça dans le cadre du bénévolat, là, un acte très salutaire et pratiquement, je ne sais même pas comment je vais décrire cela. Et je veux dire, l'opposition a été faite parmi elles. Il y a il y a des gens qui ont été aussi victimes, mais ils ont été dédommagés. Mais est-ce que les victimes en tant que telles, les victimes des familles ont aussi été dédommagées? Et s'agissant de la pression qu'il faut mettre sur le gouvernement actuel guinéen, que nous savions qui est tout sauf démocratique, qui ne respecte pas les règles du jeu démocratique, qui s'en fout éperdument, c'est-à-dire du respect des droits de l'homme et des citoyens en Guinée, on le sait. Et alors, est-ce que l'opposition, elle, parce que s'il y a eu des gens qui sont sortis, c'est parce qu'il y a un appel qui a été lancé par cette opposition actuelle, est-ce que l'opposition, elle, vous assiste? Est-ce que l'opposition fait son mieux? Parce qu'une opposition, normalement, doit constituer un contrepoids. Parce que ce que vous me dites là, je l'apprends pour la première fois, et moi, ça me choque. Qu'on ait changé déjà, c'est-à-dire qu'on a essayé de mettre de côté le terme « crime contre l'humanité » et personne n'en a parlé. Dans les médias, je n'en ai jamais entendu parler, ça me choque, vous comprenez un tout petit peu. Et là, est-ce que l'opposition vous a assisté? Il vous assiste effectivement jusque-là pour essayer, c'est-à-dire pour que ce procès-là arrive à avoir lieu, même si j'en doute très fort, hein, parce qu'il y a un manque de volonté politique, malheureusement. Et quel est l'état d'âme de ces victimes-là, c'est-à-dire des survivants de ces de ces massacres?
Bon, je tiens d'abord à préciser, vous savez, l'une des raisons principales qui fait que les magistrats ont décidé de réqualifier le fait en crime simple, puisque les crimes contre l'humanité désormais ne peuvent pas être prescrits comme c'était le cas au-delà de 30 ans. les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles au-delà du temps. Donc, quel que soit le nombre d'années, on peut toujours traduire les auteurs devant les tribunaux. Donc, je suppose que c'est l'une des raisons qui fait que ils ont décidé de réqualifier le fait de crimes contre l'humanité en des crimes simples. Maintenant, au-delà, en ce qui concerne les victimes, vous avez suivi les conditions dans lesquelles vivent beaucoup de victimes. Il y a certaines femmes qui ont été victimes de viols, qui ont été envoyées du côté de Dakar. Et elles ont été complètement abandonnées. Elles ont intervenu plusieurs fois dans les médias pour justement lancer un appel à l'aide. Mais on sait exactement ce qu'elles sont advenues. Même celui qui était le vice-président de l'AVIPA, il est décidé il n'y a pas très longtemps au niveau d'une clinique médicale à Conakry ici. Jean Pouldé. Il n'avait pas suffisamment de moyens pour aller se faire soigner à Dakar. Donc, il est mort ici banalement. Et au-delà de lui, il y a beaucoup de victimes qui sont en train de mourir. Et puis, il y a d'autres qui sont abandonnés. Il n'y a pas un soutien pour leur permettre au moins d'arriver à se faire soigner après le traumatisme qu'ils ont connu pendant ces massacres. Il n'y a pas un suivi médical, il n'y a pas un suivi psychologique, il n'y a rien. Ils sont en train de mourir. Et si effectivement on retarde à organiser le procès, d'ici quelques années, une bonne partie de ces victimes ne seront plus de ce monde. Parce qu'on le sait, lorsque vous avez vécu de telles situations, il n'y a pas un soutien derrière. D'abord, sur le plan psychologique, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent plus avoir une vie normale, travailler et gagner leur vie correctement. Et il y a beaucoup d'autres qui sont abandonnés par leur famille. Donc, rien que cela, ça pose un problème fondamental. Donc, il faudrait vraiment qu'on arrive à organiser le procès afin de permettre leur indemnisation. En ce qui concerne le rôle des leaders politiques, voyez-vous, on parle beaucoup du rôle justement que ces leaders politiques, l'opposition doit jouer. Mais n'oubliez pas une chose, nous sommes en Guinée, vous avez vécu ici, vous savez. Même en ce qui concerne les questions électorales où justement l'opposition a organisé combien de manifestations, il n'arrive pas à obtenir l'organisation des élections à date. À chaque fois, il faut qu'il y ait des dizaines de morts pour que les élections soient organisées. Celles qui ont été organisées jusqu'à maintenant, et celles de 2013 législatives, et les locales tout dernièrement. Donc même en matière d'organisation électorale, l'opposition n'arrive pas à faire abdiquer le gouvernement afin que les dispositions constitutionnelles soient respectées. Donc tout ce qu'on peut faire, moi qui vous parle, au-delà de l'arrestation que j'avais subie à l'époque sur ma partie, bro, la garde présidentielle m'a frappé ici, ça a été largement diffusé dans les médias. On s'en est pris à moi physiquement, je sais exactement ce que je suis tous les jours. Mais quand on vit dans un régime où justement le pouvoir exécutif contrôle tous les pouvoirs, que ce soit le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, il est assez difficile de faire quoi que ce soit parce que tout ce que nous pouvons, c'est de dénoncer, faire des lobbies et des plaidoyers. On ne peut pas faire au-delà. C'est le gouvernement qui prend les décisions. C'est le gouvernement qui exécute les décisions. Donc si effectivement, si vous n'êtes pas dans une position où vous pouvez prendre des décisions, mais vous ne pouvez absolument rien faire. Et c'est ça le problème fondamental. Puisque ailleurs, il y a un partage de pouvoir, chaque institution joue son rôle. Mais malheureusement, au niveau de la Guinée, depuis l'arrivée au pouvoir de professeur Alpha Condé, si vous voyez aujourd'hui, que ce soit les organisations syndicales, les organisations de la société civile, les organisations des médias, peu importe les organisations, aujourd'hui, il n'y a qu'une organisation qui fonctionne effectivement, qui jouit de ses prérogatives et qui agit d'une manière indépendante. Ça n'existe pas aujourd'hui en Guinée. Donc, ça pose un problème fondamental. Et si effectivement, vous n'avez pas une certaine force de résistance et une certaine résistance psychologique, il est assez difficile de pouvoir agir puisqu'on sait l'intimidation, les pressions qu'il y a. Il y a beaucoup de gens qui vivent ici, qui doivent prendre en charge leur famille, et effectivement, s'ils sont en conflit, ou bien ils dénoncent le gouvernement, du jour au lendemain, on peut couper tous les vivres. Moi, je sais exactement, depuis mon retour ici, tout ce que j'ai subi comme pression. Mais heureusement, ma vie ici ne dépend pas du gouvernement, puisque tout ce que je fais de la consultation, mais en dehors de la Guinée. Donc, en aucun cas, il peut influencer dans ça. Il y a même des contrats qu'on m'a proposés dans le domaine des mines, le gouvernement s'est opposé. Donc, je sais, l'impression, ce n'est pas toujours évident de pouvoir vivre ici et d'agir. Mais, on le sait aussi, nous n'avons pas le choix, puisque s'ils ne sont pas disposés à faire des sacrifices pour que l'IS ait une amélioration des conditions de vie et de gouvernance dans notre pays, malheureusement, nous allons continuer à vivre dans la pauvreté. Vous vivez en Allemagne, vous savez exactement dans quelles conditions vous vivez là-bas. Vous auriez voulu rentrer en Guinée vivre avec votre famille. Mais si effectivement on vous ne le permet pas, vous ne pouvez pas le faire. Donc, c'est vraiment un problème fondamental. Le gouvernement, aussi longtemps qu'il n'y a pas la responsabilité, la réduction de comptes, que le gouvernement soit tenu responsable, ils vont faire tout ce qu'ils veulent, puisque c'est l'impunité totale. Depuis 2010 jusqu'à maintenant, je ne pense pas que vous avez entendu, par exemple, en matière de corruption, qu'il y a eu un procès au-delà de celui de Paul Moussa Diawara. Toutes les personnes qui ont été tuées, nous avons déposé des plaintes. Dans certains cas, on a identifié les auteurs physiquement. Mais jusqu'à maintenant, il n'y a absolument rien qui est fait. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre? Parce que tout ce que nous pouvons, c'est une fois de plus dénoncer, déposer les plaintes. Mais s'il n'y a pas une volonté de la part du gouvernement de rendre justice à la population, c'est assez difficile d'aller au-delà.
Oui, d'accord, mais Maître Baldé, moi je suis en train de vous parler en tant qu'avocat des victimes, pas en tant que, je suppose que vous, parce que vous êtes là en tant qu'avocat des victimes, là, vous comprenez un tout petit, c'est pourquoi je vous pose des questions par rapport à ce que vous dites, parce que moi je suis quand même d'un autre avis, je me dis que quelque part, tout ce que vous racontez là c'est bien vrai. Mais quand moi, en tant que père de famille, je vais prendre un exemple, je demande à mon enfant d'aller quelque part et mon enfant arrive à avoir des problèmes, je dois quand même rester là, je dois l'assister jusqu'à la fin du problème. Vous avez même bien dit qu'il y a des gens, qui, les victimes qui sont en train de mourir petit à petit, bah, si ça continue comme ça, il n'y a pas de procès, donc ça veut dire que sous peu, il n'y aura plus personne. Donc, et voilà, c'est de ça que je parle. C'est pourquoi je me dis, pour moi, le silence assourdissant de tous les acteurs politiques guinéens de l'opposition est plus que... Ce silence-là, il est insupportable pour moi. Il est insupportable pour moi parce que j'arrive pas à comprendre cela. Je ne peux pas le comprendre non plus. Vous savez, j'ai été aussi victime. J'ai fait 4 mois en prison en Guinée. Je sais ce que c'est aller en prison. Je sais ce que c'est être privé de ses libertés. De sa liberté fondamentale, de se mouvoir, de décider pratiquement de faire ce que l'on veut, je le sais. Donc c'est pourquoi, moi personnellement, ce silence assourdissant de l'opposition, pour l'État guinéen, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas du moment où celui qui est là depuis qu'il est venu, déjà pour aller, le seul fait, le droit d'aller manifester, on le prive aux citoyens guinéens. Après, on nous dit que nous vivons dans un système démocratique. C'est un délire. On ne vit pas dans un système démocratique en Guinée. Du moins, on n'a pas le droit de manifester. Il y a un déni de justice totale. La justice n'est pas indépendante. Mais seulement, dans ce pays, si chacun arrivait à jouer son rôle comme ça se doit, c'est-à-dire on ne pense pas que seulement qu'à ses propres intérêts, à des calculs politiciens et tout cela, c'est-à-dire à des intérêts égotiques et égoïstes, les choses allaient se passer autrement. Parce que je vous dis, sans embâche, sans ambiguïté, 10 ans pour moi, c'est trop. Parce que c'est trop vraiment pour les victimes. Vous l'avez si bien décrit, vous avez décrit la situation de ces victimes-là. Et ça, c'est inhumain, c'est triste pour ces gens. C'est triste de savoir que ces gens-là sont là, ils appellent à de l'aide, ils n'arrivent pas à trouver. Vous comprenez un peu? Et la force aussi d'une opposition, la force des partis politiques, c'est quoi? C'est savoir aussi mettre de la pression sur ce gouvernement, c'est de constituer un contrepoids. C'est-à-dire, c'est d'être constant. Parce que le dossier du 28 septembre, c'est un dossier important pour la Guinée. C'est parce qu'il faut avec ça qu'on arrive à mettre fin à l'impunité, il faut à cette culture d'impunité-là, c'est-à-dire cette façon de banaliser la vie de l'homme, il faut qu'on arrive à en mettre fin. Mais si tout ce que l'on fait, c'est sur des bases de calculs politiques, sur des bases d'intérêts égotiques et égoïstes, franchement, je suis désolée. Néanmoins...
Madame Baldé, vous savez, je suis d'accord avec vous, mais il y a une chose qu'il faut savoir, parce que vous savez, je me rappelle encore, lorsque j'étais à Washington DC, il y a beaucoup de mes amis avec qui j'ai discuté. Il y a beaucoup de membres du gouvernement actuel avec qui j'étais aux États-Unis, avec qui je travaillais. J'ai décidé de venir, je n'ai jamais voulu d'entrer dans le gouvernement parce que je voulais mener ces combats. Vous savez, des fois, il y a cette critique qu'on le fait. Si effectivement, on n'est pas en face à ces déficits, lorsque vous êtes en face d'un tel gouvernement, il n'y a pas de principe, il n'y a pas de valeur. Vous suivez, par exemple, par rapport au changement de la Constitution, ceux qui manifestent pacifiquement, on vient, on les arrête, on met en prison puisqu'ils ont juste exprimé leur opinion, leur désaccord avec le gouvernement. Donc imaginez-vous, je suis d'accord si effectivement chaque acteur jouait son rôle, on ne serait pas là aujourd'hui. Mais le fait de dire l'opposition en tant que telle, je critique, tout le monde le sait, puisque il y a beaucoup de gens qui le savent. Chaque samedi, j'ai une émission dans une radio locale je dénonce les choses, je le dis publiquement, sans embâche. Mais en étant ici, en voyant les choses en face, c'est trop facile de dire qui aurait pu faire ceci, qui aurait pu faire cela, si effectivement on n'est pas dans une situation de terrain. Et je vous dis, je ne dédouane aucune personne. Mais je prends par exemple l'IFDG. Depuis 2011, je défends les victimes de l'ONG, tous ceux qui sont arrêtés. En ce moment, il y a une dizaine de personnes qui sont en détention depuis le mois de novembre 2018. Ils ont été accusés injustement. Ils sont en détention, leur famille est en train d'être détruite. Je me bats tous les jours, mais on n'arrive pas jusqu'à maintenant à organiser un procès pour ces gens-là. Donc, c'est des choses que je vis quotidiennement. Mais si la loi n'est pas respectée, si effectivement tout ce que vous pouvez faire, c'est de dénoncer, qu'est-ce que vous pouvez aller faire au-delà? Et puis, n'oubliez pas les partis politiques, dans les conditions normales, les partis politiques, c'est les militants qui financent les partis politiques. Mais cela ne fonctionne pas exactement comme cela ici. Donc, quand on dénonce tout ça, il faut tenir compte des réalités sur le terrain. Et ça, c'est des choses que je vis quotidiennement, puisque je suis en contact avec les leaders politiques, je sais ce qu'ils vivent. Et effectivement, s'il y a des décisions, on les dénonce. On n'a pas peur de quelqu'un. Moi, je suis là, je suis là par conviction. Et ceux qui sont ici, ceux qui me connaissent, Gadri, ils le savent. Même au niveau de beaucoup d'organisations ici, j'ai une ONG ici, je n'ai jamais obtenu aucun financement, parce que souvent, je n'accepte pas la corruption. On sait, si effectivement vous voulez être financé, quelles conditions vous devez le faire. Je tiens à garder ma liberté d'expression. Mais aussi longtemps que le gouvernement n'est pas soumis à l'autorité de la loi, je le répète, aussi longtemps que le gouvernement n'est pas soumis à l'autorité de la loi, il y a peu de choses que vous pouvez faire, puisque aujourd'hui, même si vous sortez pour manifester, vous risquez de perdre votre vie. Il y a des gens qui sont paralysés à vie, justement parce qu'ils sont sortis pour exprimer simplement leur opinion pacifiquement. Il y a des dizaines de personnes qui sont dans cette situation. Donc, il ne faut pas perdre des cibles. Nous devons tous, là où nous sommes, comme le travail que vous êtes en train de faire, vous êtes en Allemagne, mais vous vous portez volontaire pour justement informer nos concitoyens qui vivent à l'extérieur les conditions de vie des gens qui sont ici, comment la loi est appliquée. D'une certaine manière, vous apportez votre contribution. Et c'est comme ça que nous allons faire évoluer notre pays. Chacun de nous est responsable de nos actes. Nous pouvons faire quelque chose là où nous sommes. Mais, une fois de plus, c'est assez difficile de lutter contre un tel gouvernement lorsque ceux qui sont là, ils n'ont pas de principes, ils n'ont pas de valeurs. Vous suivez, quand il y a des manifestations, il est très facile pour quiconque de prendre une arme pour tirer sur quelqu'un sans aucune raison, tout simplement parce que il veut le faire. Et malheureusement, ces gens-là ne sont jamais traduits en justice. Donc, quand vous travaillez dans ces conditions, vous avez suivi Alex Sel quand il était au stade. Il était brutalisé. Et tout récemment, et ça aussi, les projectiles qui sont lancés dans sa voiture. Ce n'est pas facile quand on est ici. C'est vrai qu'il est leader, il doit dénoncer tout ça. Mais il y a ce problème-là qu'il ne faut pas perdre de vue. Quand on est en face d'un gouvernement comme celui du professeur Alpha Condé, il y a cette difficile d'agir. Donc, il faut que tous ensemble, qu'on s'étonne là. Parce que si d'ailleurs, après le massacre du 28 septembre, c'est toute la population qui aurait sorti pour exiger qu'il y ait un procès. Mais malheureusement, on a encore beaucoup d'efforts pour arriver à une telle prise de conscience au niveau de nos concitoyens.
D'accord, monsieur Maître Baldé. D'abord, avant de terminer, parce que là, ce sera la dernière question, quel est votre mot de fin? Est-ce que vous croyez réellement à la tenue d'un procès le plus rapidement que possible, ou bien plutôt, compte tenu de tout ce que vous nous expliquez ici, c'est pour le moment peine perdue, parce que effectivement, ce gouvernement n'a pas de volonté politique pour le faire, donc ceux qui sont là, ils ne peuvent rien. Parce qu'on a affaire à un gouvernement qui ne respecte pas les règles du jeu démocratique. Je reprends vos mots. Hein. Donc, quand on est contre un mur, si je comprends bien, donc voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire effectivement, dans ces conditions-là, s'il peut y avoir un procès?
Je vous dis honnêtement, je ne pense pas qu'il y aura un procès du 20 septembre aussi longtemps que le procès de Al-Makonde au pouvoir. Puisque il faut juste suivre son parcours. Depuis qu'il arrive au pouvoir, tout ce qu'il fait, il le fait sous la base des intérêts politiques. Il ne pose jamais aucun acte s'il sait qu'il n'aura pas un gain politique. Et il le sait, en organisant ce procès, il y aura pas mal de réunions, puisque aujourd'hui, Captain Moussa Dadis Camara, il bénéficie quand même d'une certaine sympathie de la part de certain nombre de nos concitoyens. Donc, le traduit en justice ici, et au-delà de lui, beaucoup d'autres acteurs bénéficient d'un certain soutien. Donc, il sait en organisant un tel procès, il pourrait y avoir éventuellement une certaine désapprobation de la part de ces gens-là. Donc, il ne le fera pas. Et alors qu'on le sait, les crimes qui ont été commis, on l'a dit, c'est des crimes contre l'humanité. Tous les critères qui définissent ces éléments sont clairs. C'est des crimes contre l'humanité. C'est des atrocités qui n'ont jamais été connues en Guinée avant. Et si effectivement, vous devez rendre justice, il faut que vous ayez le courage d'organiser un procès juste et équitable, qu'il y ait une justice pour les victimes et ceux qui ont commis ces actes puissent réaliser qu'ils ne peuvent pas continuer à commettre de tels actes et puis rester en liberté. Mais malheureusement, le pouvoir de Porteur Alpha Condé ne le fera pas, c'est mon sentiment personnel. Tout ce que j'ai vécu ici depuis 2018 jusqu'à maintenant me le dit. Et j'espère, la seule chose, mon seul espoir, c'est qu'il aura l'intelligence et la sagesse de nous permettre d'obtenir l'alternance au pouvoir en 2020 et enfin que celui qui viendra au pouvoir puisse organiser un procès pour les victimes et que ces actes-là ne soient jamais plus commis à nouveau en Guinée.
D'accord, monsieur Maître Baldé. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être venu vraiment à la radio Africa Midi, la radio de la diaspora africaine. Merci beaucoup, merci infiniment. Bonne soirée à vous et bon week-end. Et bon courage pour le combat noble que vous êtes en train de mener. Et que Dieu vous accompagne, espérant qu'effectivement, il y aura une alternance avec des bonnes personnes à la tête de la Guinée, les gens qui aiment la Guinée, le Guinéen dans son ensemble. C'est-à-dire parce que nous voulons une personne qui va amener les Guinéens à comprendre que le dénominateur commun que nous avons actuellement, c'est la Guinée. Nous sommes tous des Guinéens et voilà, ça devrait fonctionner comme ça. C'est-à-dire, le problème de X, c'est mon problème. Nous ne devrons plus essayer de se contenter des partis ethnicistes et tout qui vont encourager l'ethnocentrisme pour continuer à nous diviser pendant ce temps. Eux, ils s'entendent entre eux. Merci à vous. Merci d'être venus et bonne soirée.
Merci. À bientôt.
À bientôt, oui.
Merci beaucoup, hein, Maître Baldé du côté de la Guinée, pour avoir répondu à nos questions par rapport à ce dossier houleux. Je sais que beaucoup, il y a beaucoup d'auditeurs hein, qui voudraient poser des questions. Ce sera une prochaine fois, au niveau des auditeurs, vous l'aurez compris, hein, parce qu'on avait un souci pour pouvoir connecter le premier invité. Donc, cela s'est répercuté sur la dernière partie de l'émission. Il est déjà 23h, passé de 10 minutes. On a déjà débordé 10 minutes de temps imparti maximum pour cette émission. Et mes auditeurs, donc, j'espère bien votre compréhension par rapport à cette partie. Nous reviendrons certainement à travers d'autres débats prochainement. Vous pourrez vous exprimer par rapport à cette question. Merci à toutes, merci à tous. Pour rappel, hein, par rapport aux auditeurs qui viennent de nous suivre ou qui nous ont rattrapés en cours de chemin, il faut rappeler que aujourd'hui, on a fait un test de synchronisation avec la radio Beta FM du côté de l'Abbé, qui écoutait en Guinée, qui écoutait dans la région de Fouta, en Moyenne-Guinée, également en forêt. Donc, cette synchronisation va continuer tous les samedis, samedi prochain. On va essayer également de faire une synchronisation avec cette radio. Ce sera en live. Je rappelle demain dans l'émission, Savoir et comprendre, nous aurons Boubacar Sidigui Diallo, membre d'une nouvelle alliance du côté de la Guinée, d'une nouvelle coalition. Ça s'appelle le Cercle des acteurs politiques pour la République. Donc, c'est un bloc de l'opposition qui vient de naître et qui, bon, il parlera justement du pourquoi de la mise en place de ce bloc au sein de l'opposition et quelle est leur position par rapport à ce fameux projet de nouvelle constitution en République de Guinée. Donc, ce sera demain dans l'émission Savoir et comprendre. Merci à toutes, merci à tous, à sa chérie, merci beaucoup par rapport à cette interview avec ces deux invités. Peut-être un dernier mot pour pouvoir conclure cette soirée.
Voilà, en tout cas, merci à nos auditeurs. Nous sommes vraiment désolés que vous n'ayez pas eu le temps aujourd'hui de poser les questions parce que pour des problèmes techniques, on ne pouvait pas enchaîner. Donc, ça a retardé, comme l'a si bien dit Ibrahim Ahmed. Mais bon, c'est que partie remise. On aura le temps de peut-être qu'au samedi prochain, on va essayer de faire une émission spéciale, rien qu'entre vous et nous, pour essayer d'en parler parce que ce dossier, il est important. Alors, restez à l'écoute de la Radio Africa Midi et merci beaucoup. Bon week-end. Merci de nous avoir écoutés. Restez fidèles à nous. Au revoir.
Merci beaucoup. Voilà, restez connectés sur africamidi.com.
Okay.
Master?
No, master.
Yes. Please.
Yes.
Come.
Oh, good morning.
You in the star in the call me, Robia.
I've been around, you see, in the problem in the Sunday too.
Oh, Mumatima.
I told him I'm picking the red. I run the father in the leg in the fall morning. Yo, come back with you.
Yeah.
You have an Sandito.
Yes,
sir. Mumatima.
Allô, c'est vous, Sandito? S'il te plaît, mon frère, aide-moi à voir un crédit, s'il te plaît. Notre crédit est fini. Il n'y a pas de l'argent ici. Tout de suite là. Sans plus de temps. D'accord, nous sommes en temps ici. Ni ma mère. Tiens, monsieur. Thank you.
Vous vivez à l'étranger et vous souhaitez envoyer du crédit téléphonique à vos proches en Guinée.